Je vais passer
Bonjour. Ah, non, non. Pardon. Voilà. Mais non, parce que le bouton il était appuyé, mais c'est une erreur. Excusez-moi, pardon. Toutes mes confuses. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? On se calme. Ah ouais, non, on se détend, on se détend. On est lundi. Le lundi c'est ravioli. On se calme. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et que vous passez une bonne journée. Révolution. Ouais, vas-y, pars devant, on te suit. Manu, il nous tend un peu aussi. Oui. Oui, Macron, il tend un peu les gens, là. Et encore, c'est le début des emmerdes, attention. Attention, hein. C'est qu'une étape, hein. C'est beau Tours. Tours, c'est très joli, ouais. Ouais. J'ai rien vu de Tours, du coup. Mais j'ai passé le week-end, enfin j'ai passé 2 jours chez les écolos. Les journées d'été des écologistes qui avaient lieu à Tours cette année. Et qui m'ont fait l'amitié de m'inviter. C'était très cool. C'était très très cool. Moi j'aime beaucoup passer du temps comme ça au cœur d'une famille politique, quelle qu'elle soit, pour papoter, discuter, rencontrer. Et c'était chouette, j'ai eu des discussions passionnantes avec plein de gens, avec des élus, avec des pas élus, avec des collabs et tout. T'as fait un tour à Tours? Non, j'ai pas fait de tour à Tours. Tu vas au PS? Non, j'ai pas été invité. J'ai pas été invité, et puis de toute façon je peux pas. Oui, ils m'ont dit non mais attends, on peut t'inviter. Je fais non, non mais laisse tomber, on verra ça l'année prochaine. T'as pu danser avec Marine Tondelier? Évidemment que j'ai dansé avec Marine Tondelier, bien sûr. Les écolos, c'est pas les derniers pour la teuf, hein. Extrêmement cool comme parti politique d'un point de vue teuf. Donc non, c'était très sympa. C'était vraiment très sympa. Alors évidemment, les écolos étant les écolos, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'était dans un parc, un truc très, très verdoyant, très joli. Et il y avait des tipis et des yourtes. Évidemment, c'est les écolos. Moi j'arrive, je fais, ah ouais, ça déconne pas, d'accord, on va jusqu'au bout, quoi. D'accord, on assume le cliché, let's go. Allez, ça part. Du coup, il y avait des ateliers dans des tipis et dans des yourtes, à plusieurs endroits, c'était hyper sympa. Il faisait beau et tout, c'était super agréable. Non, c'était vraiment chouette. Il y avait évidemment des toilettes sèches. J'ai vu qu'il y avait un journaliste du Point qu'on avait fait des caisses sur les toilettes sèches. Ça fumait le calumet de la paix. Oh, il y avait une petite odeur de weed, ouais, bon, c'est les écolos, quoi. Il y en a qui m'ont raconté qu'il y a plusieurs années, il y a longtemps, il y avait les flics qui étaient intervenus chez les écolos parce qu'il y avait une odeur de weed énorme. Enfin, tout le week-end, les flics ils ont dit bon, on va y aller mollo quand même. Ouais, c'est les écolos. Est-ce que c'est ta Zouz, la meuf que t'as partagée sur Insta? Mais évidemment. Non, parce que il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans, un événement avec Libé à la Sorbonne. Ben, je crois que c'était le. Ben non, je crois que c'était Backseat l'année dernière. À la Sorbonne. J'avais dit, je sais plus quand, que je détestais les pimps. Moi, les pimps, ça me fait gerber, j'aime pas ça. Et il y a la députée Marie-Charlotte Garin qui m'a dit, ah, mais t'es un connard, t'as pas le droit de pas aimer les pimps, c'est trop bon les pimps à la framboise, les pimps à la pêche, là, je sais pas quoi. Et du coup, on avait fait une photo balancée sur Twitter de Marie-Charlotte Garin et moi avec un pimps. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que aujourd'hui, quand vous tapez Jean Massier sur Google, une des recommandations de recherche qui sort, c'est Jean Massier couple. Apparemment, il y a des gens qui se posent la question. Et quand tu cliques sur Jean Massier couple, la première photo qui sort, c'est la photo de Marie-Charlotte et moi avec un pimps. Du coup, et la deuxième photo qui sort, c'est une photo de Adèle et moi, ici dans mon appart quand on avait fait un stream ensemble. Du coup, j'ai raconté ça à Marie-Charlotte. Elle a hurlé de rire, elle a dit mon Dieu, c'est 1000 fois trop drôle. Viens, on refait une photo avec un pimps. Et du coup, elle a fait une story sur son Insta, une photo où elle entoure le Jean Massier couple avec la photo de Marie-Charlotte et moi, et on repose avec un pimps. On s'est dit vas-y, on entretient la rumeur, c'est marrant. Et du coup, pendant tout le week-end, elle m'a appelé mon promis. On a dit qu'on s'était fiancés, du coup, officiellement, aux yeux d'Internet, on s'est fiancés. Du coup, elle m'a appelé mon promis. Et Donc voilà, ça fait partie des conneries qu'on fait dans une université d'été. Ce genre de blague un peu naze, mais qui était quand même très très drôle. Et non, évidemment, Marie-Charlotte et moi ne sommes pas en couple. Déjà parce qu'elle habite à Lyon, j'habite à Paris, à un moment ça va. Et voilà. Tu bordélises le web. Ouais, non. On s'est dit qu'on allait alimenter les algorithmes de Google pour les personnes qui se posent la question de savoir avec qui je suis en couple. Donc voilà, donc j'ai vu vos réponses à la story qui étaient très drôles. Et on s'est bien marré. Et non, ouais, les écolos m'ont invité à leur université d'été parce que c'est Sandrine Rousseau qui m'avait envoyé un texto pour me dire qu'elle faisait un atelier sur la santé mentale. La prise en compte de la question de la santé mentale en politique, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Parce que Sandrine Rousseau a fait une mission d'information parlementaire. Elle a dirigé une mission d'information sur la question de la santé mentale. Elle a rendu un rapport. Non, le rapport va être rendu, parce que du coup, il a été interrompu par la fin de la législature avec la dissolution. Mais elle m'a dit que le bureau lui avait dit que ça allait. Donc elle va rendre son rapport là en septembre, ou octobre, je sais pas, sur la question de la santé mentale. Bref, elle a fait un atelier, une table ronde hyper intéressante sur la santé mentale. Et c'était très chouette, du coup j'étais là pour témoigner, machin, et c'était intéressant. Et après, après, il y avait des questions du public, évidemment, il y a des questions des gens dans la salle et tout, c'est un atelier participatif, on discute et tout, machin. Et évidemment, il y a une écolo qui a levé la main et qui a dit, ouais, les médicaments psychotropes sont inefficaces, faut pas les prendre, il faut se soigner avec des huiles essentielles. Et là, je me suis dit, putain, les écolos, je vous aime d'amour. Vous avez toujours des gens gênants dans votre parti, mais j'ai envie de te dire, dans tous les partis, ça changera jamais. Donc voilà. C'est le cliché. Ah, le cliché était splendide. Qu'elle parte devant. Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit un truc du genre, bah écoute, je veux bien écouter tes arguments, mais je vais aussi écouter ceux de mon médecin si ça te dérange pas. Bon. Les lumières, la pleine lune, tout ça. Ah ouais. Donc c'était super intéressant cet atelier. Et du coup, comme les écolos m'avaient invité à participer à un atelier, moi je leur avais envoyé un texto en juillet en leur disant, bah les gars, en vrai, vu que je serai sur place, si vous voulez que je participe à d'autres trucs, dites-moi, je suis chaud, enfin je suis là, quoi. Et du coup, il m'avait dit, ouais, est-ce que ça te dirait d'animer des ateliers? Je lui ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, j'ai animé deux ateliers sur la dissolution et sur les institutions. Quelle 6ème République porte la gauche, etc. Et c'était chouette, évidemment. C'était mon cœur de métier, donc c'était hyper intéressant. J'étais avec Léa Ballage, la députée écolo, qui d'ailleurs est celle qui organise les journées d'été. Avec Alexis Corbière aussi, il y avait Alexis Corbière et Raquel Garrido qui intervenaient parce que vous savez que depuis qu'ils ont été purgés de la France Insoumise, eh ben, ils sont dans le groupe des écolos à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils étaient aux journées d'été des écolos. Et c'était chouette. T'as l'air à fond avec les écolos. Ah non, je suis pas à fond avec les écolos, j'ai passé un super week-end chez les écolos. Ça c'était chouette. Tu viens à Blois jeudi? Non, j'ai pas été invité à Blois. Blois, c'est les journées d'été des socialistes. Mais c'est pas grave, une autre fois. Les écolos sont sympas. Ah bah oui, ils sont très sympas les écolos. Oh, il y a une super bonne ambiance chez les écolos. Les écolos, c'est marrant, il y a toujours une super ambiance chez eux. En vrai, ouais. Ah non, franchement, c'est une ambiance militante plutôt cool. En même temps, je connais pas de parti politique dont l'ambiance est dégueulasse, hein. Un parti politique, c'est une grande famille de copains, de gens qui se serrent les coudes, qui sont ensemble, qui avancent ensemble. Donc les journées d'été d'un parti, c'est souvent très sympa. Le PS. Mais non, le PS, ils sont sympas aussi. Bon, ils ont tous la chemise rentrée dans le pantalon, mais ça, c'est. C'est une autre gauche, mais c'est pas grave. T'es allé chez LR? Alors, les Républicains ne font pas d'université d'été cette année, pour des raisons de. Comment dire? C'est un peu compliqué chez les Républicains cette année. C'est pas la bonne année pour se retrouver dans une ambiance de franche camaraderie entre militants. Compliqué, compliqué, compliqué. Je crois qu'ils sont encore en train de régler leur conflit devant les tribunaux. Pour des raisons de scission. Ouais, voilà, il y a eu, comme qui dirait, un schisme. Donc non, LR. Donc voilà, c'était super sympa et je sais pas quoi vous dire de plus. Ah si, alors du coup j'ai vu qu'il y avait eu le, il y avait eu la polémique de la danse. Parce que Marine Tondelier et Olivier Faure ont dansé ensemble. Apparemment, ça a polémiqué, hein. Marine Tondelier qui se retrouve chez RTL avec encore des effluves d'alcool à devoir se justifier d'avoir dansé. T'es en mode, ah ouais, d'accord, on en est là. Et est-ce que vous avez pas vu, vous, c'est que avant de danser, ils ont chanté ensemble avec Clémentine Autain, Marine Tondelier, Olivier Faure. Ils ont chanté enfin, une espèce de karaoké improvisé. Et ce à quoi moi j'ai participé, que personne n'a vu, c'était avant ça la négociation. J'ai assisté en direct à une négociation du NFP. Attention, grosse négo. Il y avait Marine Tondelier, il y avait Olivier Faure, il y avait Clémentine Autain, il y avait moi, il y avait Laurent, le collab d'Olivier, il y avait, je crois qu'il s'appelle Raphaël, qui s'occupe du programme des écolos. Et la discussion a duré 45 minutes. La négo a duré 45 minutes pour savoir sur quelle chanson on va chanter. Et vraiment, c'était en mode Marie Tourdulé qui proposait Johnny, Olivier Faure a proposé Mylène Farmer. Olivier Faure est un homme de goût. Et ça a négocié pendant une plombe. Il y a eu un Dalida qui a popé à un moment. On s'est trouvé un terrain d'entente. Et finalement, ils se sont arrêtés sur Johnny Hallyday. Donc ce sont les écolos qui ont obtenu la victoire sur cette négociation du NFP. Je dis, vas-y, allumez le feu, ça marche toujours et tout. Vas-y, ouais, on connaît les paroles, ouais, vas-y, ça part. Et donc, ils sont allés chanter et ils ont passé une super bonne soirée. Ils se sont marrés comme des baleines et l'ambiance était folle et c'était trop drôle et tout le monde dansait et tout, c'était trop cool. Et le lendemain, effectivement, sur Twitter, t'as des vidéos de Marine Tondelier qui danse avec Olivier Faure. Le non-événement. C'est qui Johnny? C'est un ancien évadé fiscal. Pas de Michel Sardou ni d'Alain Delon. Non. Alors l'année dernière, il y avait eu Michel Sardou, je me souviens. L'année dernière, parce que j'étais aussi invité l'année dernière, c'était au Havre. Dans la soirée, il y avait eu un lac des Connemara qui pop à 2h du mat. Tu le connais, hein? Tu le connais, le lac des Connemara, où on est tous bourrés et tout le monde chante. Bon, bah, il a popé. Et Marine Tondelier, il a débarqué en disant: Putain, vous cassez les couilles, pourquoi vous mettez du Sardou? Faites chier, vous m'avez emmerdé sur Médine. Et là, Sardou, ça pose de problème à personne. Terre brûlée. Donc voilà. Et la veille au soir, ouais, non, parce que la veille aussi, on avait fait la teuf, évidemment. La veille au soir, il y avait eu. On était assis sur des tables. Il y avait la musique qu'on entendait évidemment, qui était sous le chapiteau là, avec le DJ. Et il y a un moment, il y a la Kiffance de Naps qui pop. Et là, il y a Marine Tondelier qui prend la main de Marie-Charlotte, qui fait: Oh, j'adore cette chanson, viens, on va danser, oui! Elles se barrent toutes les deux en courant pour aller danser. Et moi, je me retourne vers les autres qui sont là, je leur fais: Mais il est pas en tôle, le mec? Ils me regardent avec des grands yeux, en disant: Quoi? Mais si, enfin le chanteur, la Kiffance, c'est bien Naps, on est d'accord, c'est Naps. Mais Naps, il est en tôle depuis genre hier. Là, ils sortent leur téléphone, ils checkent, ils font: Ah putain, ouais! Oh merde! Ah ouais, bah non, bah non, bah non, mais Naps, on peut plus là. Non? Coup dur. Ah bah quand tu sais pas, tu sais pas. Non, Marine Tondelier qui se barre en courant pour aller danser sur Naps. Ok. D'accord. La cancel culture, ah c'est terrible. La collab d'Olivier était en panique lors du slam. C'était le collab d'Olivier. Oui, je sais, je l'ai vu, il était en panique. Parce que oui, Olivier a fait un slam, évidemment. Olivier Faure a fait un slam. C'était la bonne ambiance des universités d'été, des écolos. Et voilà. Et alors d'ailleurs, j'en ai croisé certains d'entre vous. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir en disant: Ouais, je voulais te dire que je suis là parce que t'en as parlé en stream. Vous vous souvenez la semaine dernière quand je disais: Ouais, les journées d'été, si vous connaissez pas, c'est un bon moyen de découvrir un parti politique, etc. machin. Et ben, il y en a parmi vous qui m'ont écouté et qui sont venus. Et du coup, j'en ai croisé, c'était super sympa. Ils étaient là, ouais, non, je découvre, c'est intéressant. Je suis pas chez les écolos, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Donc c'est cool, ça me fait plaisir. Puis j'espère que les autres, vous êtes allés dans d'autres universités, d'autres partis politiques, ou que vous êtes allés nulle part. Et vous avez bien raison aussi, il n'y a pas de problème. Il y a combien de gens? Alors cette année, c'était le record absolu des écolos. Hein. C'était la plus grosse université d'été de l'histoire des écolos. Il y avait 3600 personnes inscrites. 3600 personnes inscrites, c'est le record pour les écolos. Chapeau à eux, bravo. Ils avaient fait des entrées moins chères le jeudi, parce que le jeudi soir, il y avait le meeting de Lucie Castet. Lucie Castet était présente le jeudi pour faire un discours. Et là, c'était le moment où il y avait le plus de monde. Moi, j'y étais pas parce que je suis arrivé le lendemain. Donc, j'ai pas entendu le discours de Lucie Castet. Non, et puis voilà, puis c'était sympa parce que c'est aussi l'occasion de croiser des élus, des gens que tu croises d'habitude à l'Assemblée nationale dans des contextes beaucoup plus tendus et tout. Et là, ils sont super détentes. Tu peux discuter avec tout le monde. J'ai papoté avec David Cormon, c'était trop bien. Thomas Dossus, le sénateur, bon, on s'est retrouvé en boîte à danser ensemble à Tours et c'était trop de la balle. Et c'est un mec super sympa, Thomas Dossus, et hyper intéressant. J'ai eu une longue discussion à minuit et demi avec Cyrielle Chatelain, qui est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe écolo. Et Cyrielle qui me disait, tu te rends pas compte le bordel que ça va être à l'Assemblée. Mais nous-mêmes, on se rend pas compte du bordel que ça va être parce que, et c'était hyper intéressant la discussion qu'on avait, j'étais déjà bourré, mais la discussion était quand même vachement intéressante. T'es allé au PIMS? Ouais, je suis allé au PIMS. La boîte de nuit de Tours s'appelle le PIMS. Et il y avait un partenariat avec les écolos, on pouvait y aller gratuitement avec le bracelet des universités d'été. Et donc on a fini au PIMS, ouais, c'était très cool. Et donc bref, je reprends. Cyrielle Chatelain en discutait et elle me disait en fait, le règlement de l'Assemblée nationale, il a été pensé dans une philosophie qui est celle de il y a une majorité, il y a une opposition. Et tout a été pensé comme ça, et c'est normal en fait, c'est ce qu'on a connu depuis 70 ans sous la 5ème République. Et le problème, c'est que là, on se retrouve dans un mode de fonctionnement hyper chelou, où on va avoir une majorité minoritaire, avec des groupes d'appui qui ne soutiennent pas, mais ne votent pas non plus la censure. Mais du coup, est-ce que c'est des groupes d'opposition ou pas? Comment est-ce qu'on va se répartir l'agenda? Ne serait-ce que l'agenda, comment est-ce qu'on discute ensemble de l'agenda? La présidente de l'Assemblée nationale est minoritaire à l'Assemblée nationale et est minoritaire au sein de son propre bureau, le bureau de l'Assemblée nationale, qui a une majorité NFP. Et en fait, elle me dit, il va falloir qu'on négocie parce que il y a peut-être des trucs sur lesquels on a tous intérêt collectivement à se mettre d'accord parce que ceux qui sont aujourd'hui dans une situation risquent de passer dans la situation inverse le lendemain matin. On va en parler ensemble, hein, de Lucie Castet à Matignon ou pas, mais quel que soit le Premier ministre, on est dans une assemblée qui est tripolarisée et en fait, si demain le NFP se retrouve dans l'opposition d'un gouvernement macroniste et que hier c'était les macronistes qui étaient dans un mouvement d'opposition à Lucie Castet, donc du coup comment est-ce que tu te répartis les postes, comment est-ce que tu te répartis le temps de travail, etc. Enfin, ça pose des questions absolument fascinantes. Et moi surtout en discutant avec Cyrielle, je me suis rendu compte du vertige que ça allait provoquer chez moi, parce que moi mon rôle à moi, c'est de vous expliquer à l'Assemblée nationale, mais je vais pas vous mentir, il y a un paquet de trucs que je vais pas pouvoir vous expliquer parce que je ne les comprends pas. Et parce qu'ils ne sont pas compréhensibles, et parce que les acteurs même de l'Assemblée nationale ne les comprennent pas. Cyrielle elle-même, elle me disait, je me pose des questions tous les jours sur qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va négocier, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord, etc. Parce qu'il y a des moments, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quel est le rapporteur du texte déposé par une formation minoritaire, etc. Est-ce qu'on le soumet au vote? Est-ce que c'est un vote à majorité relative ou pas? Avant, c'était toujours pareil, le rapporteur du texte est toujours le même qui est nommé. Donc, tu vois, c'est... Donc accrochez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, on va passer des mois rigolos à essayer de comprendre une actualité politique qui elle-même va s'écrire sous nos yeux, un nouveau parlementarisme va naître en France, de fait, et il va falloir qu'on essaie de le comprendre. La vulgarisation va pas être simple, elle va pas du tout être simple, moi je vais pas réussir à tout vous vulgariser, hein. Là on rentre en terrain inconnu, on rentre en terrain inconnu. La 5ème République, depuis 70 ans, elle a un mode de fonctionnement particulier. On peut en discuter pendant des heures. Je peux vous l'expliquer pendant des heures. J'ai donné cours, j'ai fait des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais là, depuis juin 2024, on rentre dans une nouvelle phase qui va être intéressante, certainement, mais qui va être difficile à comprendre. Donc voilà. Ah oui, tiens, attendez, dernier truc chez les écolos. Aux universités d'été des écolos, pour acheter de l'alcool, il faut acheter des tournesols. C'est ça la monnaie des écolos en interne. Donc il m'en restait dans ma poche. Parce qu'à la fin, tout le monde me payait des coûts, donc forcément, j'avais plus le moyen de les dépenser. Donc voilà, il me reste des tournesols. Il me reste des tournesols, bah, je vais les garder pour l'année prochaine s'il me réinvite, hein. Parce que c'est les mêmes chaque année, hein. Donc là, j'en ai combien? 11. Sachant qu'une bière, c'est 3. Un café, c'est 1. Et le taux de change, c'est un tournesol égal 1 euro, hein, je vous le dis tout de suite. Effondrement du cours du tournesol à venir. Ouais, j'avoue. Avec l'inflation, peut-être que ça va révaloir, en fait, l'année prochaine. Je possède des tournesols, je suis à l'aise financièrement. C'est bien un truc d'écolo. Ah, c'est complètement un truc d'écolo. Ah non, mais moi j'adore les écolos parce qu'ils assument complètement le cliché, hein. C'est vraiment des mecs cool. Et des meufs. Cool. La fameuse terra incognita, exactement. Et donc, on était à Tours, donc aux universités d'été des écolos, journée d'été des écolos. Lorsque la nouvelle est tombée. Alors pas seulement la nouvelle, il y a eu vendredi la journée à l'Élysée en fait. Où Marine Tondelier était à l'Élysée. Était à l'Élysée avec les autres forces du Nouveau Front Populaire, pardon, avec Lucie Castet. Et ils sont allés rencontrer le président de la République, c'était vendredi matin. Et ensuite, Marine Tondelier, elle est revenue aux journées d'été. Et elle s'est autorisée une sieste dans une yourte, parce qu'elle s'était levée hyper tôt pour aller à des matinales radio et tout. Et après, elle a popé à 18h, elle allait bien et c'était chouette. Mais donc, il y a eu la négociation au NFP, à l'Élysée, pardon, enfin pas la négociation, mais le NFP qui est arrivé uni dans le bureau d'Emmanuel Macron. Semble-t-il, d'après Lucie Castet elle-même, les discussions avec Emmanuel Macron ont été encourageantes. Il semblerait qu'Emmanuel Macron ait reconnu qu'il avait perdu les élections, reconnu qu'il allait falloir travailler différemment, etc. Le nouveau Front Populaire a affirmé au président de la République une unité. En disant, si vous essayez de fracasser le Nouveau Front Populaire, vous n'allez pas y arriver. Donc les théories à la Bernard Cazeneuve ou je sais pas qui Premier ministre, en fait, ça ne va pas nous diviser. Nous, on est unis pour Lucie Castet à Matignon. Et on l'a répété pendant tout l'été, machin, etc. On a mis du temps à trouver le nom, mais maintenant qu'on l'a, on est unis. Et donc voilà, cette unité a marqué les esprits, en tout cas peut-être celui du président de la République. Et ensuite, il y a eu une information qu'on connaissait déjà, parce qu'on en avait parlé ensemble la semaine dernière, c'était les macronistes, le groupe Ensemble pour la République, votera la censure de tout gouvernement qui comprendrait des ministres insoumis. C'est la ligne rouge. S'il y a des insoumis dans le gouvernement, on vote la censure. Et là, samedi, patatras, enfin pas patatras, Jean-Luc Mélenchon, en direct aux 13h, je crois, de TF1, qui annonce que les insoumis proposent de apporter un soutien sans participation au gouvernement de Lucie Castet. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Le leader d'un parti qui est quasi majoritaire dans une coalition politique qui annonce qu'il est OK pour qu'aucun des membres de son parti ne soit représenté au sein d'un gouvernement qu'il soutiendrait quand même. C'est fort. C'est tactiquement extrêmement intelligent de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce que ça contrecamse totalement les macronistes, ça remet la pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron en disant tu vas faire quoi maintenant? En fait, vu que votre ligne rouge c'était ça et que maintenant il n'y a plus de ligne rouge, bah du coup c'est bon, Lucie Castet-Matignon, ça part. Premièrement, et deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver dans une posture d'un groupe qui ne participe pas à un gouvernement qu'il soutient quand même, mais qu'il soutient peut-être du bout des lèvres, et que si ce gouvernement se casse la gueule, Jean-Luc Mélenchon pourra toujours dire, bah nous on a fait ce qu'on a pu, c'est pas de notre faute, on n'y était pas. Donc l'éventuel cassage de gueule du gouvernement Castet, qui risque d'arriver au moment du budget, on va pas se mentir, bah les mélenchonistes, les insoumis, pourront dire, bah nous on n'a pas participé à ce gouvernement. Donc on ne partage pas. On ne partage pas le bilan de ce gouvernement. Soutien critique. Jean-Luc Mélenchon qui colle le bluff de Macron. C'est un peu ça, ouais. Non, en vrai, c'est un peu ça. Et donc, c'était fait effectivement intelligemment. Et c'est, je pense, un coup de maître de la part de Jean-Luc Mélenchon qui place les macronistes dans une situation difficile. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir justifier pourquoi vous ne soutenez pas le NFP. Alors, il y en a certains qui ont commencé. Vous avez peut-être entendu Jean-René Cazeneuve, par exemple, sur Twitter ou dans une interview au Figaro, qui a dit « Ah non, mais moi, c'est pas les insoumis, le problème, c'est le programme du NFP. » Ah bon, d'accord. Ah bah, au moins, c'est plus clair. Donc, en fait, votre argument, il était pété. C'est pas les insoumis qui vous posent un problème, c'est le programme du NFP. Au demeurant, je vais le redire ici une fois, comme ça calmera tout le monde. Le NFP n'aura pas les moyens politiques d'appliquer son programme. Voilà, c'est dit, c'est fait, vous le savez, vous le comprenez. Le NFP n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va être obligé, Lucie Castès, si elle est nommée demain matin, ce qui, je pense, peut arriver, voire même ce soir, parce qu'apparemment Emmanuel Macron voulait faire une allocution. Elle va devoir négocier une abstention. Elle va devoir négocier les abstentions des macronistes sur un vote de motion de censure. Et ça, la négociation, ça va être sur le programme. Donc moi, je pense que l'hypothèse Lucie Castet a véritablement pris corps à partir de ce moment-là. Je pense que ça devient une hypothèse sérieuse. J'en veux pour preuve, ce matin, j'ai ouvert le Figaro et j'ai vu que genre 5 de leurs articles de tête, c'était sur Lucie Castet. Donc j'ai fait, ok, donc en fait la droite commence à comprendre que ça va être Lucie Castet. Et ils se mettent en ordre de bataille pour s'opposer à sa politique. Donc ok, très bien. Et puis voilà quoi. Emmanuel Macron a laissé courir l'information selon laquelle il pourrait organiser de nouvelles consultations à partir de demain. Donc refaire un round de discussion avec les groupes politiques, avec les formations politiques, pour discuter quoi, justement négocier cette fameuse abstention dont Lucie Castel aura besoin. Et le nouveau Front Populaire a dégainé un communiqué de presse pour annoncer que non. Non, il y a un moment, ça va, la blague a bien duré. On va pas retourner discuter. Maintenant, c'est Lucie Castet ou rien. Donc, on ne discutera que la composition du gouvernement. Et encore, on ne discutera pas, parce que voilà, ce sera une cohabitation. Donc, ce sera Lucie Castet à Matignon. Mais sans Lucie Castet à Matignon, on ne discute pas. Nous, c'est bon, on arrête. C'est ça que disent les leaders du NFP aujourd'hui. Je lis leur communiqué, je le découvre en même temps que vous. Hein. Depuis plus d'un mois, le nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête aux élections législatives, a désigné sa candidate pour constituer un gouvernement. Depuis plus d'un mois, nous attendons du président de la République qu'il agisse en garant des institutions, en tirant la seule conclusion politique d'un scrutin qu'il a décidé lui-même, la désignation de Lucie Castex comme première ministre. D'accord. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, alors qu'il ne reste que quelques semaines pour préparer le projet de loi de finances particulièrement attendu, le budget, dont je vous parlais la semaine dernière, Emmanuel Macron continue de tergiverser. En choisissant de maintenir en poste un gouvernement démissionnaire, il complexifie chaque jour la tâche du futur gouvernement qui devra redresser la situation dans laquelle il laisse le pays. En retardant la mise en place du nouveau gouvernement, le président empêche l'avènement d'une nouvelle façon de conduire la politique de la nation que les Françaises et les Français attendent. Avec les présidents et présidentes des groupes parlementaires du nouveau Front Populaire, nous avons rencontré le président de la République ce vendredi 23 août dernier, comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Massier. Devant nous, il a pris acte de l'attente exprimée par la population qui a placé le nouveau Front Populaire en tête des élections, de tourner la page de la politique menée depuis 7 ans. C'est ce que fera le nouveau Front Populaire en engageant le redressement des services publics, en augmentant les salaires et les minima sociaux, en accélérant la bifurcation écologique du pays et en procédant à un renouveau démocratique. Nous lui avons rappelé qu'il revenait désormais au Parlement, et non à l'Élysée, de former des majorités parlementaires, texte par texte, et qu'en persistant à vouloir former son propre gouvernement, il sortait du rôle d'arbitre que lui assigne l'article 5 de la Constitution, niant ainsi le choix des électeurs et des électrices. Ouais. Une question a en outre été posée au parti du camp présidentiel qui prétextait la présence de la France insoumise pour justifier une censure du gouvernement du Nouveau Front Populaire. En l'absence de ministres issus de la France insoumise, s'engagerait-il à ne pas censurer un gouvernement Lucie Castet qui proposerait au Parlement d'appliquer le programme du Nouveau Front Populaire? Cette question n'a, à ce jour, pas reçu de réponse. Le président de la République doit désormais agir et nommer Lucie Castet à Matignon. Dans l'attente, nous ne participerons à de prochaines discussions avec le président de la République que pour travailler sur les modalités de cette cohabitation et, respectueux des institutions, nous nous tenons à sa disposition pour tout échange dans cet objectif. Fin de citation. Fin de communiqué de presse. Signé par Lucie Castet, Manuel Bompard, Olivier Faure, Fabien Roussel, Marine Tondelier. Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que Emmanuel Macron va faire une allocution à 20h? Parce que moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait moyen. Mais je vois pas d'infos. Ou alors au JT, il va se faire inviter, je sais pas. Vous avez vu passer l'info, vous? Nous, on est prêts, hein. Je trouve pas l'info, bah non, moi non plus. Pas d'annonce nulle part, non, non, non. Il a attendu Baxit. Ah, il a attendu Baxit, c'est gentil. Il semble dire que peut-être que non, finalement. Ah, bon, et bah pas de locution. Ah ouais, alors par contre, ça m'arrange pas parce que je vous le dis tout de suite, demain, moi je suis pas là. Je suis pas là demain et après-demain. Je reviens jeudi. Donc pas de stream demain, pas de stream après-demain. Ça tombe mal, mais c'est comme ça. Macron attendra jeudi alors. Bah j'espère. J'espère qu'il aura la politesse d'attendre. Mais oui. Si les LFI ne sont pas dans la liste des ministres, ils pourront toujours garder leur poste au Parlement en mode nous sommes dans l'opposition, navré, mal dit potentiellement. Non, c'est pas mal dit potentiellement. Le seul poste dont tu parles, c'est le poste de président de la commission des finances, qui aujourd'hui échoit à Éric Coquerel, qui est un député insoumis et qui a d'ores et déjà annoncé qu'il démissionnerait de son poste de président de la commission des finances si d'aventure Lucie Castel était nommée à Matignon. En effet, le poste de président de la commission des finances doit obligatoirement être occupé par un opposant, un membre de l'opposition. Éric Coquerel, si d'aventure Lucie Castel était Premier ministre, ne serait pas opposant. Donc, mais non, 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 LFI ne s'inscrirait pas dans l'opposition au gouvernement. Il deviendra un gouvernement, un parti, un groupe, pardon, de la majorité. Et toi, t'en penses quoi? C'est marrant parce que j'ai re-regardé mon stream d'il y a 3 jours. Où vous me demandiez, tu penses que Lucie Castel va être nommée à Matignon? Et je vous répondais, non. Non, mais en vrai, non, bah non, non. Non, y a pas moyen de jaja. Je vois pas un alignement de planète qui permettrait à ce que Lucie Castel devienne Premier ministre. Et là, aujourd'hui, il est 18h32, on est le 26 août. je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen que Lucie Castel soit nommée Premier ministre. D'un gouvernement qui va avoir énormément de mal à faire quoi que ce soit. Et franchement, Lucie Castel, j'ai un respect infini pour elle parce que là, elle a accepté un truc. Et il y a moyen que ça dure que 3 mois. Hein. Il y a moyen que ça dure que 3 mois et que tout ça se fracasse sur le budget. Le budget sera adopté par 49-3. Et toute la question est de savoir si les macronistes voteront la censure ou pas au moment du budget. Et à mon avis, les macronistes vont faire leur taf, et ils ont bien raison. Bah, je dis pas ça parce que je les soutiens, mais ils font leur taf, c'est-à-dire qu'ils vont faire monter les enchères. Ils vont dire à Lucie Castet, ah ouais, tu veux pas qu'on te censure? Et ben voilà, voilà ce qu'il faut mettre dans ton budget. Et ils vont faire durer le plaisir jusqu'au dernier jour, en menaçant de voter la censure. Et qu'à la dernière minute, peut-être que Gabriel Attal enverra un texto à tous les députés en leur disant on vote pas la censure. Donc on les laisse appliquer un budget, après qu'on l'ait bien négocié. C'est ça qui va se passer. C'est pas un problème, un truc aussi bancal côté image pour la gauche? Bah, la gauche n'a pas d'enjeu d'image, elle a des enjeux de gouverner le pays, là. Enfin, vous vous rendez compte quand même de l'enjeu. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne image, là. Il s'agit de diriger le pays, il s'agit de prendre des décisions rapides en faveur du pouvoir d'achat, etc., des services publics, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, dans un budget contraint, qu'il va falloir négocier, travailler. Tu vois, par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure, les macronistes ne voteront pas la censure du gouvernement, machin, etc. Bon. Peut-être que les macronistes vont dire à Lucie Castet, Madame la Première ministre, virgule, nous ne vous censurons pas si vous déposez un budget qui respecte les 3% de déficit. Allez-y, présentez-nous un budget. Vous pouvez créer des impôts supplémentaires, vous pouvez machin et tout, mais la limite, c'est 3% de déficit. Voilà. Ça peut le faire, hein? Et donc peut-être que Lucie Castet va devoir annoncer à la gauche que toutes nos ambitions du nouveau Front Populaire vont prendre du temps. Ce ne sera pas dès la première année. On ne va pas appliquer le programme du NFP dès la première année. Ça va prendre du temps. Il va falloir faire une montée en charge. Il va falloir créer des nouveaux impôts qui mettront un an à rapporter du pognon. Et ensuite, on aura des marges de manœuvre pour les services publics, etc. Donc l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, c'est peut-être pas pour cette année. Peut-être pour l'année prochaine. Il y aura une censure si l'ISF est sur le tapis. Alors, autre possibilité, t'as raison, j'y avais pas pensé, mais autre possibilité, Gabriel Attal, il peut dire, nous ne censurerons pas le gouvernement s'il n'augmente pas les impôts. Voilà, notre ligne rouge, c'est ça. Pas d'augmentation d'impôts. Vous vous démerdez. Si vous voulez augmenter tel service public, bah vous devez couper dans les dépenses ailleurs. Budget constant. Ouais, c'est ça, budget constant. Regarde ce que vient de dire Attal. Ah, Gabriel Attal a dit une dinguerie. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas vu. Pour l'instant, les journaux disent rien sur Attal. Mais ça ne saurait tarder. Allez, le F5, là. Alors, si, 18h30. Pour Gabriel Attal, la proposition d'un gouvernement casse-tête sans LFI est un simulacre d'ouverture et une tentative de coup de force de Jean-Luc Mélenchon. Gabriel. C'est pas ça un coup de force. Ça, c'est l'inverse d'un coup de force, en fait. C'est un coup de faiblesse. Jean-Luc Mélenchon. Le mec retire ses propres membres du gouvernement. Genre, pas un coup de force. Pardon, je continue à lire. Excusez-moi. L'initiative de Jean-Luc Mélenchon, qui a ouvert la porte à un gouvernement du nouveau Front populaire sans ministre de la France insoumise, n'est qu'un simulacre d'ouverture et une tentative de coup de force, estime Gabriel Attal dans une lettre lundi aux députés du groupe Ensemble pour la République. Je cite, avec le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, nous avons dit au président que nous sommes prêts à des compromis. Nous continuons à nous opposer de toutes nos forces à l'application unilatérale du seul projet de LFI et du NFP, pour lequel la censure serait inévitable, écrit le Premier ministre démissionnaire, récemment élu à la tête du groupe macroniste au Palais Bourbon. Bah oui, mais du coup, il dit deux choses contradictoires dans la même lettre. Bah je veux bien, mais. Nous continuons à nous opposer de toutes nos forces à l'application unilatérale du seul projet du NFP. Bah oui, évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Puisqu'ils vont être obligés de négocier le NFP. Donc Attal est d'ores et déjà en train de faire monter les enchères. Je vous le disais tout à l'heure. Gabriel Attal est d'ores et déjà en train de faire monter les enchères. Il demande incidemment à Lucie Castet de démontrer que son programme n'est pas unilatéralement le programme du NFP. En même temps, Lucie Castet, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, elle a déjà donné des gages. Elle a déjà donné des gages. Elle a dit, nous ferons des compromis. Nous irons chercher des compromis. Bonne réponse ou comme désastreuse? Bonne réponse d'un président de groupe qui joue son rôle de président de groupe, qui fait monter les enchères. Est-ce qu'on peut attendre à une différence entre la menace de censure et la censure réelle? Autrement dit, est-ce qu'il y a du bluff? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, bien sûr, il y aura du bluff. Si Lucie Castet est nommée à Matignon, ce qui, je pense, pourrait arriver dans les heures qui viennent, les macronistes vont menacer la censure, vont menacer de censure. Ils vont faire leur job de parlementaire. Ils vont menacer de censurer le gouvernement. Il va y avoir beaucoup de bluffs, il va y avoir beaucoup de négos. Il va y avoir beaucoup de saillies comme ça dans les médias, qui sont en réalité la partie émergée d'un iceberg qui est celui de la négociation parlementaire. Et vous allez entendre Jean-Luc Mélenchon qui va dire j'arrête de soutenir, je menace d'arrêter de soutenir le gouvernement Lucie Castet. Bah oui, lui aussi il joue son rôle. Il est à la tête d'un groupe qui a plus de 80 députés. On sait si le RN voterait une motion de censure ensemble ou inversement. Pas à l'heure qu'il est. Pas à l'heure qu'il est. On sait pour l'instant que le Rassemblement national a annoncé par la voix de Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin qu'il voterait la censure de tout gouvernement NFP, quel qu'il soit. Ce qui n'est pas surprenant. Donc le pourcentage de chance est erroné. Ah non, je trouve que 49,3% c'est le pourcentage parfait. Et LR, ils ont annoncé quoi? LR, ils ont annoncé pareil. LR, ils ont annoncé pareil. Ils ont dit, nous, c'est pas la présence des insoumis notre problème. Notre problème, c'est le NFP. Si c'est un gouvernement NFP, on s'opposera et on votera la censure. Voilà. Pareil, faut pas s'étonner. Fallait pas attendre autre chose de la part du LR. Ils sont dans leur rôle. Quelle erreur a fait le NFP en se désistant? Alors c'est pas le NFP qui s'est désisté, c'est la France Insoumise qui s'est désistée de la participation au gouvernement, mais qui a annoncé qu'il le soutiendrait quand même, et je ne pense pas que c'était une erreur. Je disais tout à l'heure que je pense que c'était au contraire un très joli coup joué par Jean-Luc Mélenchon, qui place au pied du mur Emmanuel Macron et son gouvernement. Et son gouvernement, ses ministres, enfin ses députés, enfin c'est la même chose. Enfin bref, vous comprenez quoi. Je parlais lors des triangulaires. Alors, je me permets de pas être d'accord avec toi. Je pense que le NFP n'a pas commis d'erreur en se désistant du second tour, là où il y avait une menace d'avoir une élection d'un député RN. Je pense que c'est l'honneur du NFP que d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher un gouvernement Bardella. Parce que ce serait un autre genre de stream, là, que je serais en train de faire, si d'aventure Bardella était Premier ministre. Mais on peut ne pas être d'accord. Stream en Andorre. Ah non, je vais pas partir à l'étranger, moi. T'es flou. Comment ça, je suis flou? Ah merde, je suis flou. Attends. Ah ouais, c'est mieux. Merci. Il y a deux secondes, tu disais aveu de faiblesse, maintenant tu dis que c'est un joli coup. Oui, c'est un joli coup. Comment dire? Mais c'est la même chose. Enfin, comment dire? Jean-Luc Mélenchon s'est fait harakiri. C'est ça que je veux dire. Et c'est un coup de maître dans la partie d'échec. Je dis la même chose. Dans les deux cas, je dis la même chose. Jean-Luc Mélenchon a retirer la potentialité d'avoir des ministres LFI, ce qui est quand même quelque chose de fort de la part d'un parti politique. Je n'ai jamais entendu de ma vie un responsable politique qui est partie prenante et grosse partie prenante d'une coalition majoritaire dans un parlement dire « je ne participe pas au gouvernement ». Moi, j'ai jamais entendu ça. Jean-Luc Mélenchon a sacrifié la reine. Exactement, voilà, c'est un gambit de la dame. Dites-vous que c'est... Voilà, c'est un gambit de la dame. Ah si, le PCF après 81, ouais, ils sont retirés. T'as raison. Jean-Luc Mélenchon veut-il se donner le beau rôle pour 2027 avec sa déclaration? Alors, je sais pas si c'est ce qu'il vise. Alors oui, si, je sais que c'est ce qu'il vise. Jean-Luc Mélenchon souhaite 2027, ça on le sait. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est aussi un coup de maître de la part de Jean-Luc Mélenchon parce que ça lui permet de ne pas se mouiller dans un gouvernement NFP qui va être obligé de négocier avec les macronistes. Parce qu'il y a un côté traquenard aussi. Hein. Vous voyez bien là, dans ce que je viens de lire de Gabriel Attal, etc., que Lucie Castel, elle va devoir trouver des compromis avec des macronistes, hein, qu'elle va devoir abaisser l'ambition du programme du NFP pour appliquer une politique autant de gauche que possible, mais le possible va être vénère. Jean-Luc Mélenchon, lui, il va rester en dehors de ça en disant « je soutiens sans participer ». Comme ça, je pourrais dire à mes électeurs « je n'ai pas participé à cette... » débâcle, si d'aventure ça devenait une débâcle aux yeux d'un électorat de gauche. Après, ça reste aussi le programme de LFI. Ouais, mais je te donne rendez-vous dans un an pour qu'on fasse le bilan de quel pourcentage a pu être appliqué réellement. Ça va pas être énorme, hein. pense qu'elle va faire ce qu'elle peut, Lucie Castet. Et que ce sera déjà bien. C'est une question de point de vue. Est-ce que toute la gauche a des chances de s'allier pour la prochaine présidentielle ? Non. Non. Et j'en discutais avec Alexis Corbière, qui connaît bien LFI évidemment, et qui me disait si Lucie Castet devient première ministre, Jean-Luc Mélenchon a peut-être une concurrente sérieuse pour 2027. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Too soon. Mais Lucie Castet peut être le visage de l'union de la gauche. Et candidate en 2027, ça peut avoir de la gueule. Si tant est qu'elle soit soutenue par les partis de gauche. Too soon. Ouais, too soon. Si GLM se présente, il n'y aura pas d'union. Oh, bah moi, je vois gros comme une maison qu'il y aura Jean-Luc Mélenchon candidat, il y aura... comment il s'appelle ? Glucksmann. Oui, c'est ça, Glucksmann. Et entre les deux, il y aura peut-être une Lucie Castet. Ruffin, je sais pas. J'en sais rien, je suis peut-être. Hollande. Ah, Hollande. Le retour. Celui qui n'a pas pu présenter sa... défendre son bilan, qui va le faire 10 ans plus tard. Et la gauche va s'insulter sur Twitter. Voilà. C'est à peu près ça le... le plan pour 2027. Ça va continuer à s'insulter. N'oubliez pas que Jean est le Nostradamus de la politique. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur mes... Ah putain, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est pénible. Les trucs où tu prédis l'avenir, là. Pronostic, merci. Putain. Mes prédictions et mes pronostics. Twitter en 2027, c'est pas sûr. Ah, t'as raison. Il y aura peut-être plus Twitter. Peut-être que ça va aider à l'union de la gauche. C'est trop stressant de suivre la politique. Comment tu fais au quotidien ? Je danse. Moi, je suis comme Marine Tondelier et Olivier Faure. Je danse. Donc les négociations ont déjà commencé. Lucie Castet sera peut-être nommée première ministre. En tout cas, Gabriel Attal n'a pas l'intention de lâcher la main. Il n'a pas l'intention de donner un chèque en blanc à Lucie Castet en lui disant « Non, t'inquiète, je te censurerai pas ». Il va pas faire ça. Il va la laisser gouverner minoritairement. Ils vont taper fort à l'Assemblée nationale. Et ils vont menacer de censurer le gouvernement. Et il va falloir que le gouvernement apporte des gages pour ne pas être censuré. C'est quand la rentrée parlementaire ? C'est le 1er octobre, la reprise de la session ordinaire du Parlement, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une session extraordinaire du Parlement qui soit convoquée avant. Genre 2 semaines avant, tu vois. Ça peut tout à fait arriver, c'est même quelque chose qui était relativement habituel ces dernières années, jusqu'à l'année dernière, où il n'y a pas eu de session extraordinaire, on a repris le 1er octobre. Donc voilà. Si le gouvernement est censuré, qui peut reprendre ? Eh bah rebelote en fait. Non mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Lucie Castet va avoir un gouvernement démissionnaire pendant un mois, le temps que des consultations aient lieu pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. « Moi, je comprends toujours pas pourquoi Macron a refait des législatives alors qu'il avait la majorité et le tapis rouge jusqu'aux prochaines élections. Je suis d'accord avec toi. La dissolution de Macron était une connerie du point de vue macronien. Vraiment, je pense que c'était une erreur. Et tout le monde lui a dit, Gabriel Attal lui a dit, etc. Tout le monde lui a dit, ne fais pas ça. Tu as 245 députés. C'est pas suffisant pour avoir une majorité absolue, mais c'est le maximum qu'on peut avoir. Si tu dissous, on va se retrouver avec bah, la situation dans laquelle on est. Et c'est pas du tout à l'avantage de Macron. Donc, ah non, c'est vraiment une dissolution de merde. Hein. Est-ce que tu peux expliquer ce qui arrivera s'il n'y a pas de budget voté pendant un an ? Il y aura des reconductions de crédit de l'année dernière. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Une espèce d'année blanche, tu vois. On continue. On continue, mais bon, en parallèle, on mène pas vraiment de politique économique, quoi. D'où le gel du budget évoqué par Attal. Ouais, c'est ça, le gel des crédits proposés par Attal. En réalité, c'est ce qui va finir par arriver si aucun budget n'est voté. D'ailleurs, Gabriel Attal qui propose un gel des crédits, j'ai envie de lui répondre, mais bah oui, mais en fait, t'as pas le choix. Je vois pas ce que tu peux proposer d'autre. Alors, le truc, c'est qu'avec l'inflation, il faut trouver 10 milliards d'euros d'économie. Sauf si le Parlement en décide autrement. L'année blanche, ce n'est pas une année sans impôts. Non, je suis navré de vous l'annoncer. Non, 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 il n'y aura pas d'année sans impôts, open bar, avec des petits tournesols. On va pouvoir acheter des trucs avec des tournesols. Non. Le bac pour tout le monde. Ça, c'était en 68, ça. Même si on contracte plus, il y a quand même des impôts. Ouais, je vous déconseille de ne pas payer vos impôts. Pour militer, pour protester. Non, non, faites pas ça. Vraiment, vous allez être rattrapé par la patrouille. Ça va mal se passer. Heureusement qu'on n'est pas aux USA, parce que le gel des crédits, c'est tous les fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique. Alors, pas tous. Non, non, aux États-Unis, ce qu'on appelle le shutdown. Il y a des règles, il y a des lois aux États-Unis qui prévoient que le shutdown ne concerne pas l'armée. Et un certain nombre d'agences, genre le FBI, etc. Enfin, ces gens-là continuent à être payés. Par contre, effectivement, chaque année, on donne le même exemple, c'est les parcs nationaux aux États-Unis. Vous savez, le parc du Yosemite, etc., c'est magnifique. Et bah, les agents de ces parcs ne sont plus payés. Ils sont licenciés. Et on les réembauche 2 mois plus tard quand il y a à nouveau du pognon. La NASA, ouais, la NASA. La NASA, pareil. Il coupe pas les crédits de la NASA. Ils sont pas licenciés, ils sont suspendus. On les renvoie chez eux, on leur dit vous reviendrez quand il y aura de l'argent, c'est ça ? C'est horrible. Non mais enfin vraiment, c'est... Donc bref, en France, il existe des règles qui permettent d'éviter ce genre de situation un peu absurde où, faute d'accord politique, les fonctionnaires en pâtissent. Donc non, il y a des systèmes en France qui permettent de reconduire le budget de l'année passée pour continuer à faire fonctionner les services publics. Ne pas oublier que la première niche sera celle du RN. Que faire s'il propose des mesures sociales pour déstabiliser la gauche ? Le RN, ils avaient proposé de baisser les cotisations salariales sur les bas salaires. Pas le genre de truc que la gauche va voter, tu vois. C'est la hausse du SMIC version RN, c'est une baisse du salaire brut. Pas ouf, hein. Les ministres démissionnaires conservent-ils leur rémunération alors qu'ils ne font qu'expédier les affaires courantes ? Est-elle réduite ? Non, elle n'est pas réduite. Les ministres démissionnaires sont ministres. Ils perçoivent leur rémunération, leur indemnité, normalement. Et je le redis, les ministres n'ont pas de salaire à vie. Ça, c'est une légende urbaine qui circule sur Internet, je sais pas pourquoi. Il n'existe pas d'indemnité à vie pour les anciens ministres. Pas du tout. Est-ce qu'ils reçoivent le double d'indemnité s'ils sont aussi députés? Alors ça, c'est une bonne question, j'en sais rien. C'est tellement jamais arrivé cette histoire-là que je ne sais pas s'ils perçoivent leur indemnité de député en plus de leur indemnité de ministre. Je crois qu'il y a des règles de d'écrêtement ou de non-cumul qui s'appliquent. Ils n'ont pas un chauffeur à vie? Non, les anciens ministres n'ont pas non plus de chauffeur à vie. Il y a des ministres, des anciens ministres qui peuvent continuer à bénéficier à la discrétion du nouveau gouvernement d'un chauffeur, etc. Il y a des ministres particulièrement exposés pour des raisons de sécurité qui continuent à bénéficier d'une protection policière rapprochée. Je mets des guillemets à bénéficier parce que c'est pas marrant, en fait, d'avoir des policiers autour de soi toute la vie. Mais il y a d'anciens ministres qui continuent à bénéficier, ouais, de ce type de trucs. C'est que les présidents qui ont une rémunération à vie. Non, les présidents non plus n'ont pas de rémunération à vie. Non. Ils cotisent à la retraite, hein. Ouais, j'ai vu la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Elle est pas incroyable, hein. Enfin, oui, Attal m'accuse de coup de force, mais je ne suis pas dupe. Je suis juste le prétexte pour lui d'une autre opération. Pour ceux que les intrigues de palais intéressent, admirez comment Attal ruine l'opération de rencontre du président avec tous les partis représentés à l'Assemblée. Il lui impose une autre méthode de travail. Bref, Attal pousse Macron dehors. S'il y a un coup de force, c'est bien celui-là. Avantage, la Macronie se disloque. Inconvénient, je ne sais plus qui croire. Ouais. Je suis pas sûr qu'Attal fasse un coup de force contre Macron en disant ça. Mais je suis d'accord avec lui pour les intrigues de palais. C'est-à-dire que. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, Attal joue son rôle. Marine Le Pen a dit que le Front National censurerait un gouvernement de gauche. Mais comment elle pourrait faire ça? Ils n'ont pas assez de députés pour. Ah non, mais elle voterait la censure. Ça veut pas dire que ça marcherait, mais elle voterait la censure. C'est ça que ça veut dire, je censurerai un gouvernement machin. Évidemment qu'elle n'a pas les moyens, elle est pas majoritaire, mais elle déposera une motion de censure. Voilà, puis les autres députés seront invités à la voter ou pas. On attend une news en particulier, là où c'est juste un on chill. Ah pourquoi ça te plaît pas? Moi j'aime bien, on discute, c'est sympa. Non, on attend rien de particulier, on m'avait dit que. On m'avait dit, non, mais j'avais cru comprendre que Macron devait faire une allocution ce soir, peut-être éventuellement, mais visiblement non. C'est terrible, on est pendu aux lèvres de Macron. On se fait chier, hein. Peut-être éventuellement, ouais. Pourquoi penses-tu que la diminution des cotisations sociales sur les salaires n'est pas une solution pour redonner du pouvoir d'achat et relancer la consommation? C'est tout à fait valable comme argument. C'est tout à fait valable comme argument. Mais il y a des personnes qui t'opposeraient que réduire les cotisations sur les salaires, c'est réduire la capacité de la sécurité sociale à protéger les salariés. Que donc, en fait, c'est un bien pour un mal. Donc, c'est pas ouf, en fait, au final. Mais on peut en discuter. Et cette discussion fait l'objet d'une négociation chaque année dans le budget. Politique de l'offre, politique de la demande. C'est donner 100 balles dans une poche et que l'on a pris dans l'autre. Ouais, c'est ça. Qui voterait une motion de censure dans laquelle le RN vote pour? C'est pas un peu risqué politiquement? Et sans le RN, ça se passe. Alors attention. Je vous rappelle que les groupes à l'Assemblée nationale ont la possibilité de déposer une motion de censure. Mais ils ne sont pas responsables de qui décide de la voter. Vous n'êtes pas responsable des votes des autres, en fait. Je vous rappelle que sous la précédente législature, la France insoumise a déposé des motions de censure qui ont été votées par le Rassemblement national. Mais ça, t'y peux rien, en fait. Tu proposes un texte au vote. Tu peux pas refuser des votes. Symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ah bah, effectivement, ça offre un argument à tes opposants. À l'époque, je me souviens très bien, les macronistes disaient « ah bah voilà, regardez, nous avons ici le RN et là la France insoumise, main dans la main, qui vote la censure contre le gouvernement, c'est bien la preuve que ce qu'on dit, l'extrême-gauche vaut pas plus que l'extrême-droite, etc., etc. » Tout cet argumentaire-là, cas d'argumentaire valable, enfin, c'est leurs arguments à eux, bah oui, ça leur donne de l'eau à leur moulin, oui. Mais regardez ce qui va se passer. Si les macronistes, admettons, imaginons Lucie Castet, Premier ministre, les macronistes déposent une motion de censure. Et là, le RN décide de la voter, parce qu'ils sont d'accord. Que va dire la gauche ? La gauche va dire « ah bah voilà, bah regardez, nous avons l'alliance de la bourgeoisie et de l'extrême droite qui votent ensemble pour empêcher la gauche de mener une politique en faveur des plus fragiles, etc. » Argumentaire historique de la gauche. Donc voilà, donc c'est un argumentaire dans le cadre d'un parlementarisme, c'est des choses qui arrivent, hein, que vous allez voir popper assez régulièrement. Tout ça, ce sont des postures. Non, c'est pas des postures. Enfin, le problème, c'est que quand tu dis posture, il y a quelque chose de péjoratif derrière. Oh, c'est des postures politiques, etc. Genre, ils y croient pas. Mais si, ils y croient. Enfin, je veux dire, c'est les convictions qu'ont les gens au Parlement. Enfin, moi, je vous ai toujours invité à respecter la sincérité des engagements des politiques. Les gens, ils y croient à ce qu'ils disent. Marine Le Pen, elle est convaincue de ce qu'elle fait et de ce qu'elle dit. Il ne faut pas la prendre à la légère. Hein. Il ne faut pas prendre les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord à la légère. Même Ciotti, ouais, même Ciotti. Donc, quand ils votent la censure, quand ils ne la votent pas, quand ils votent des lois, quand ils n'en votent pas, quand ils soutiennent des gouvernements, etc., ils y croient. Ils sont engagés. Les macronistes, des convictions. Les macronistes ont des convictions, oui. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je vous invite à ne pas mépriser vos adversaires politiques en disant qu'ils sont bêtes, qu'ils sont cons comme des tables, et que vous, par contre, vous êtes très intelligent parce que vous avez eu des lectures et que vous avez regardé des trucs sur Internet, etc. Non. Vos adversaires politiques ont des convictions très fortes. Ils ont des méthodes, ils ont une efficacité, ils ont des succès parfois aux élections. Ils réussissent à faire des trucs que vous n'arrivez pas à faire. C'est aussi une vérité. Il faut pas la... Enfin, encore une fois, faites ce que vous voulez. Hein. Mais oui, non, Macron sait très très bien ce qu'il fait. Hein. Macron est loin d'être un gros débile. Sauf sur la dissolution. Là, sur le coup, là, je continue à dire « Frère, j'ai rien compris. » Mais ça se trouve, il y a une logique interne que j'ai pas encore comprise et que dans 5 ans, je me réveillerai, je disais « Mais putain, mais oui, en fait, il a fait ça pour ça. » Non, je me souviens, c'était un commentaire sous une de mes vidéos YouTube qui m'avait fait percuter un truc. C'est un mec qui disait « En fait, si ça se trouve, Macron a dissous maintenant pour ne pas avoir à attendre l'automne prochain. » Le moment où les Républicains allaient être amenés à voter la censure sur le budget en 49-3. Manière de se ménager la possibilité de faire une alliance avec les Républicains après qu'il ait réussi à les scinder en deux et que Ciotti soit parti. Et je me suis dit, mais il est pas con ce commentaire YouTube. Parce qu'en fait, il a raison le mec. Macron avait pas intérêt à attendre. Parce que moi, mon discours, ce que je disais dans la vidéo qu'il commentait, je disais, Macron aurait dû attendre le budget de se faire censurer son gouvernement pour la dissoudre. Ce qui est une forme de logique institutionnelle, rejet du gouvernement, dissolution. C'est cohérent, c'est pas débile, ça a du sens, etc. Et lui, il me disait, ben non, parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu places les députés LR dans la posture de voter la censure. Or, ce sont les gens sur lesquels tu as besoin de t'appuyer pour constituer une nouvelle majorité dans le gouvernement d'après. Et effectivement, c'était pas con du tout. Il n'y avait pas pensé. Même la dissolution, c'est calculé. Perso, ma réponse est simple, il sabote la France. D'accord. Donc toi, tu penses que Emmanuel Macron, dans son bureau, s'est posé la question de savoir comment faire du mal au pays. Comment je peux faire pour déstabiliser, pour créer du chaos, etc. Après 7 ans de pouvoir, comment faire pour casser tout ce que j'ai construit? Tu penses vraiment que c'est sa manière de penser? Non. Macron ne pense pas comme ça. Macron ne fait pas ça pour ça. La grenade au pied. Alors oui, j'ai balancé une grenade découpillée dans leurs jambes et maintenant je vais regarder ce qu'ils vont faire. C'est une citation qui a été rapportée du président de la République. La vérité, c'est que ça va marcher. Je vous rappelle que Emmanuel Macron souhaitait un exercice de clarification avec sa dissolution et qu'il a réussi à clarifier un truc. C'est les Républicains. Ça, il a réussi à le faire. Éric Ciotti a été contraint de sortir du bois et de dire, en fait, moi, ma préférée, c'est Marine Le Pen. Ça faisait 2 ans qu'Emmanuel Macron se pétait les dents sur Éric Ciotti pour essayer de trouver des accords de gouvernement, de budget, etc. Il n'y arrivait pas. Il a dissous, Éric Ciotti est sorti du bois, il a dit en fait, moi, ma candidate, c'est Marine Le Pen. Et du coup, les LR se sont scindés en deux. Emmanuel Macron a marché, a réussi. Sa grenade découpillée a fonctionné du côté du RN. Deuxième chose qu'Emmanuel Macron voulait faire, c'était scinder la NUPES. La NUPES venait de se déchirer dans les élections européennes, avec des mots très durs qui ont été prononcés par Glucksmann, par Mélenchon, par Marie Toussaint, pas beaucoup, et par Fabien Roussel. Macron s'est dit, si je dissous maintenant, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord, c'est con. Et bien ça a raté. Ça a raté. Objectivement, il avait des raisons de le penser. Je ne vais pas vous mentir, il avait des raisons de le penser. Hein. Moi, je crois que je le disais à l'époque sur Baxit, la gauche sort dans un sale état de ces élections européennes. La NUPES va-t-elle avoir un avenir? C'est vraiment pas sûr. C'était chaud. Et voilà, la morale de l'histoire, le NFP est né. Ça, Macron n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, la grenade découpillée n'a pas fonctionné à gauche. Elle a fonctionné à droite, mais pas à gauche. Le NFP, personne n'y croyait avant mi-juin. Ouais. Et d'ailleurs, la NUPES, personne n'y croyait avant 2022. Hein. Regardez les anciens épisodes de Baxit, hein, vous verrez. Non. On va pas refaire la NUPES. Alors en plus, vous savez ce que c'est le plus drôle dans cette tirade de Glucksmann? Parce que tout le monde s'est foutu de la gueule de Glucksmann, etc. Il y a eu une inversion du rapport des forces, voilà mes conditions, on va pas refaire la NUPES, je suis majoritaire à gauche, etc. Ça a fait marrer tout le monde sur Instagram, sur TikTok, etc. Le truc, c'est qu'il avait pas tort, en fait, Glucksmann. Et surtout que le résultat auquel on est arrivé correspond à ce qu'il voulait. Le NFP n'est pas la NUPES. Ils n'ont pas refait la NUPES, ce n'est pas vrai. Le NFP n'est pas la NUPES. Les conditions qui ont été placées par Glucksmann et par le PS ont été acceptées par les Insoumis. Les Insoumis ont réduit le nombre de circonscriptions qu'ils avaient. Le PS a augmenté le nombre de circonscriptions qu'ils avaient. Donc techniquement, si vous réécoutez ce que disait Glucksmann dans cette interview, bah en fait il a obtenu ce qu'il voulait, Glucksmann. 100 circos en moins. Ouais, 100 circos en moins pour les Insoumis, entre la NUPES et le NFP. Et place publique. Oui, alors place publique, ils ont obtenu quelques circonscriptions. Ils en ont eu aucune. Ah si, Aurélien Rousseau, il a été élu député? Je me souviens plus. Ouais, il a été élu. Ok. Bon, bah il y a un député place publique, c'est Aurélien Rousseau. Félicitations. Les législatives ont prouvé qu'il avait tort, plus de place pour LFI. À peine, à peine, à peine, à peine. Attention, L'inversion du rapport de force et le rééquilibrage des forces au sein de la NUPES, il a eu lieu, hein. Je vous rappelle que les socialistes ont multiplié par deux leur nombre de députés. Ce qui n'est pas le cas des insoumis. Ils ont un petit peu augmenté, mais pas beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, le NFP, c'est un équilibre entre d'un côté les socialistes, de l'autre côté les insoumis, et entre les deux les écolos et les communistes, qui ne sont pas très nombreux. Et ça, c'est pas la NUPES, effectivement. La NUPES, c'était pas ça. La NUPES, il y avait 30 députés socialistes, je crois. Entre Faure et Mélenchon, oui, mais pas Glucksmann. Bah, Glucksmann soutenait le Parti Socialiste. Tu dirais que LFI est plus à gauche que le PCF. Je joue pas à ce jeu-là, j'en ai rien à branler. Vraiment, hein, le petit jeu de qui sait qui est plus à gauche que qui, c'est pas du tout une grille de lecture qui m'intéresse. Bureau national du PS convoqué demain en urgence, l'opposition de Faure a quelque chose à jouer. Ouais, alors ouais, on en parlait parce que alors, du coup, aux journées d'été des écologistes, là où j'étais à Tours, il y a eu un discours d'Olivier Faure, qui était très sympa, un discours super, super gentil envers les écolos et tout. Et Olivier Faure a fait une blague à un moment. genre, il disait, vous êtes super sympa les écolos, je vous aime bien, on est vraiment copains, les socialistes et les écolos c'est une longue histoire, etc. Et il a fait une blague, il a dit « si je me fais virer au prochain congrès du PS, je viendrai chez vous ». Et là, vraiment, t'as tout le monde qui a fait « Wow ! Ok ! Chelou la blague, Olivier ? Enfin, d'accord ? What ? D'accord. Je l'aurais pas tenté, celle-là. » Et du coup, j'en discutais avec quelqu'un, dont je dirais pas le nom, qui me disait « Ouais, Olivier Faure, ça va être chaud son congrès. » Objectivement, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que y a deux motions sur trois du PS qui demandent la séparation du PS avec LFI. Donc Olivier Faure, il risque d'être mis en minorité dans les urnes au sein du parti, et d'avoir un conseil national hyper relou, déjà qu'il est dans une situation chelou, parce qu'en fait, le PS aujourd'hui, c'est 50-50, c'est vraiment quasiment 50-50, entre les fauristes et ceux du maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, c'est les deux grandes forces du PS, entre ceux qui sont du côté d'Olivier Faure, donc qui sont pour le NFP, et ceux du côté de Maillard-Rossignol, qui sont plutôt tendance Carole Delga, Glucksmann, etc., qui veulent séparer la gauche d'LFI, etc. Donc déjà que c'est chaud pour le PS actuellement, mais le prochain congrès, il est possible que Olivier Faure perde. Ou pas. Après, ça va se négocier, comme d'habitude, les motions, elles font toujours monter l'ambiance avant le congrès pour essayer d'obtenir des trucs, mais... Le truc, c'est que... on en discutait, mais... Un congrès socialiste à moins d'un an des élections municipales... Non, à moins de deux ans, un an et demi des élections municipales, c'est pas le moment de se diviser, en fait. Genre, le PS a trop à perdre. Le PS, sa principale force, c'est son... Le PS, sa principale force, c'est son assise territoriale, c'est ses communes, c'est ses conseils départementaux, conseils régionaux, c'est là qu'il est puissant, le PS. T'as pas intérêt à éclater le parti. Donc à un moment donné, ils vont finir par se rabibocher au bout du bout avec une motion commune à la con où ils se mettent d'accord pour dire que bon, LFI, on n'aime pas trop, mais enfin bon, quand même, le NFP, c'est bien. Super, les gars. Le PS, sa principale force, c'est LFI. Et vice-versa. C'est fou, hein, mais oui. Le PS, c'est LFI qui les a sauvés, ils ont l'air de l'oublier pour certains. Alors, on va le répéter. Le PS n'a pas sauvé LFI, LFI n'a pas sauvé le PS. l'un et l'autre ont conclu un accord qui s'est appelé la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale à l'occasion des élections législatives de juin 2022 parce qu'ils en avaient mutuellement besoin. La France Insoumise, malgré un score de 19% à l'élection présidentielle, n'avait que 17 députés entre 2017 et 2022. C'est bizarre quand même, après une telle force aux élections présidentielles, de se retrouver avec seulement 17 députés, un tout petit groupe. Alors pourquoi ils s'en trouvaient à 17 députés alors qu'ils avaient fait 19% à la présidentielle? Eh bien parce qu'ils avaient des candidats socialistes face à eux dans les circonscriptions. Pareil pour le Parti Socialiste qui s'est pété la gueule avec l'ami Benoît Hamon et qui s'en retrouvait avec, je crois que c'était une trentaine de députés, un truc comme ça. Parti Socialiste qui a connu des assemblées dans lesquelles ils étaient plusieurs centaines. Donc le PS s'est aussi pété la gueule. Et pourquoi ils se sont pété la gueule, le Parti Socialiste, alors qu'ils avaient un ancrage local et tout? Eh bien parce qu'ils avaient des candidats LFI contre eux dans les circonscriptions. Donc, en 2022, le PS et LFI se sont dit « Et si on arrêtait de refaire les mêmes conneries tous les 5 ans et qu'on se mettait ensemble d'accord pour présenter des candidats dans les circonscriptions ?» Voilà comment est née la NUPES. Donc non, LFI n'a pas sauvé le PS. Non, le PS n'a pas sauvé LFI. Ils ont eu mutuellement besoin l'un de l'autre pour ne pas se retrouver comme des cons à ne peser rien du tout face aux macronistes hégémoniques. Voilà. Relation toxique, je sais de quoi je parle. Ouais. Relation toxique. Ambiance chill. Ouais, exactement. L'interdépendance, principe d'un accord électoral. Tout accord électoral fonctionne de cette manière-là. Et c'est normal. Le PS n'était pas mort qui est arrivé en premier aux élections européennes. C'est le Rassemblement National qui est arrivé premier aux élections européennes. Est-il possible qu'un jour le PS et la France Insoumise ne fassent qu'un au présidentiel? Il y a un milliard de trucs qui me donnent envie de te répondre non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et puis il y a la réalité politique de ce pays qui fait que depuis 5 ans il se passe des dingueries tellement hallucinantes que j'en perds mon latin et que je découvre des trucs que je pensais impossibles la veille. Tu serais venu sur mon stream en mai 2022 en me demandant « Tu penses que LFI et le PS pourraient signer un accord électoral pour les législatives ?» Je t'aurais répondu « Bah t'es ouf ou quoi ? Mais jamais ! Mais jamais !» Bon, et ben un mois plus tard c'était une réalité. Tu penses que Place Publique peut être un acteur majeur de la prochaine année avant la présidentielle? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais en même temps, ce que je pense, on s'en branle pas mal. Je sais que Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il ferait sa rentrée politique en septembre prochain. Il va peut-être annoncer la création d'un nouveau parti. Lui qui veut recréer la social-démocratie en France. Pourquoi pas? Intéressant, faut voir. Il va peut-être réussir à rallier des personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se barrer du PS pour rejoindre Glucksmann. C'est quoi Place Publique? C'est le parti de Raphaël Glucksmann. C'est un parti de centre-gauche qui propose de recréer une social-démocratie à la française. Sur l'héritage un petit peu de François Hollande, si tu veux, pour dire les choses vite. Est-ce que ça peut devenir un acteur majeur de la vie politique? J'en sais rien. Quand Jean-Luc Mélenchon s'est barré du Parti Socialiste en 2008... Tu m'aurais demandé à l'époque, tu penses que Mélenchon peut devenir un acteur majeur de la vie politique du pays dans les 10 ans qui viennent? Je t'aurais répondu, bof, je pense pas, non. Ben voilà où on en est. Il a créé un des plus grands partis de gauche de l'histoire de France. Est-ce que Glucksmann va devenir quelqu'un dans les 10 ans qui viennent? Je ne sais pas. Peut-être. Le PS n'est pas déjà un parti social-démocrate? Encore une fois, jouer sur les mots, les tendances, etc., c'est pas trop mon truc, je m'en fous pas mal. Ce que je sais, c'est que François Hollande, lorsqu'il était président de la République, s'est revendiqué de la social-démocratie, donc il revendiquait un axe social-démocrate pour son quinquennat. Ce que je sais aussi, c'est que le PS a rompu avec le hollandisme en 2018. 2017 même. Donc, bon. Le PS est un parti socialiste. Socialisme français. LFI est un des plus grands partis de France, je suis pas convaincu par cette phrase. Non, j'ai dit de gauche. LFI est un des plus grands partis de gauche de l'histoire. De l'histoire, peut-être pas, t'as raison. Oui, non, bon, d'accord. Si on va chercher la SFIO, le PCF, etc., d'accord, ok. Les mecs avaient 3 millions d'adhérents et tout. Je respecte. On est un peu sorti de cette méta-là. C'est étonnant de parler autant de politique, mais jamais du fond. Ça, c'est ma bêtise. C'est parce que je suis très con. Mais comme toi, t'es très intelligent, tu vas pouvoir nous éclairer. Et ça, c'est chouette. Est-ce que tu connais Hassan Abi? Hein? Je connais pas, non. Ah si, c'est pas l'américain. Hassan Abi, l'américain qui parle actu politique. Si, ça me dit quelque chose. Je l'avais rencontré à la TwitchCon. On s'est juste serré la main, on n'a pas eu l'occasion de discuter. Connais pas. Connais pas, jamais vraiment regardé, je t'avoue, donc je sais pas, j'en sais rien. Tu vas à la fête de l'UMA, Jean, il y a un backseat là-bas? Je sais pas. Peut-être. On verra. Selon toi, quand Nintendo présentera officiellement la Switch 2? Quand Lucie Castet sera à Matignon. Nintendo présentera la Switch 2. Et on aura un nouveau trailer de GTA 6. Et Silksong, bien sûr. Et Half-Life 3, tous les jours. Mais oui, vous savez, quand Lucie Castet sera première ministre, le soleil se lèvera à l'horizon, les hirondelles reviendront chanter au printemps et l'herbe sera plus verte dans les prairies. Normal, bah ouais, normal. Si Olivier Faure perd beaucoup de militants du PS, dont des parlementaires partiront, j'ai ouï dire que Glucksmann a déjà commencé à discuter avec la minorité. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après. Non, mais après, ils se démerdent, les socialistes, j'ai envie de dire, c'est bon. Non, mais ils se démerdent, mais c'est quand même difficile d'en vouloir à Olivier Faure. Lui qui a réussi à multiplier par deux le nombre de députés du parti, il y a un moment ça va quoi. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs de la minorité du PS, mais enfin. Nouveau Front Populaire, c'est quand même une grosse augmentation du nombre de députés socialistes, quoi. Un devoir d'ingratitude, ouais, ça doit être ça. Tu me diras, c'est ingrat la politique. À quel prix? Ah, à quel prix? Ah bah ils ont payé le prix suprême au prix d'un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Oh, terrible! Quelle horreur, mon Dieu! Non mais j'aimerais bien les voir faire des scores avec des candidats à LFI face à eux dans les circonscriptions, les mecs. Allez-y, hein. Partez devant, je vous regarde, hein. C'est fou. Lucie Castès sera tellement jamais première ministre. Ah, je te propose d'attendre quelques heures et on rediscute de ton message dans mon chat. En vrai, je dis ça alors j'en sais rien. Je sais pas, c'est possible, on verra. Il y a moyen, je pense qu'il y a plus moyen depuis 48 heures qu'avant. C'est pour ça, la semaine dernière, je faisais un stream où je vous disais Lucie Castet, Matignon, j'y crois pas trop. Ça a peu de chances d'arriver quand même et tout. Là, je commence à me dire, en vrai, avec le move de Mélenchon, là. Après, bon, vous allez dire que je me protège, mais il y a moyen que Lucie Castet devienne première ministre dans quelques mois. Il s'est passé quoi ces dernières 48 heures? J'ai pas spécialement suivi. Alors, si t'as pas suivi, en fait, les macronistes disaient qu'ils censureraient tout gouvernement NFP dans lequel il y aurait des députés, des ministres, pardon, insoumis. En disant que leur ligne rouge, c'était la présence de ministres insoumis dans le gouvernement Lucie Castet. Et que si jamais il y avait des ministres insoumis, alors ils censureraient immédiatement. Et ce qui s'est passé, c'est que avant-hier, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Très bien, et bien dans ce cas, je propose qu'il n'y ait pas de ministres insoumis dans le gouvernement Lucie Castet. » Gambit de la dame. Boum. Voilà ce qui s'est passé. Et là, ça a bégayé. Et là, au début, ça n'a pas dit grand-chose. Et puis, finalement, Gabriel Attal a dit « Ouais, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet, en fait, le gouvernement. La présence d'insoumis, en fait, c'est le projet qui pose problème. Donc, en réalité, on censurera sans doute quand même. » Et moi, ce que je vous dis, c'est peut-être qu'il dit ça pour le rapport de force de négociation qui va s'ouvrir, mais qu'en réalité, ils ne censureront pas. Aucune prédication possible. Non, et pour une raison très simple, c'est que la négo n'a pas encore eu lieu. La négociation, elle aura lieu dans le bureau de Lucie Castet, première ministre, sur le prochain budget. Mais ne soyez pas étonnés d'entendre les macronistes menacer de censurer. C'est normal. C'est leur arme la plus puissante, la censure. Ils tiennent, j'allais dire par les couilles, non mais bref. Ils tiennent le gouvernement Castet en menace, en joue avec un flingue, en leur disant « il nous suffit qu'appuyer sur la gâchette pour que vous dégagiez. Donc vous avez intérêt à accéder à nos demandes. » Voilà, c'est ce qu'on appelle une négociation parlementaire. Est-ce qu'il faudra passer par l'Assemblée pour abroger la réforme des retraites? Oui. Pourquoi menacer de censure quand il pourrait modifier, amender les lois proposées par un gouvernement NFP? Précisément parce que pour modifier et amender les lois du NFP, ils ont besoin de l'outil censure. Sinon, ton amendement, il passe pas. Tu vois, il y a un moment, bon... Ils ont besoin de l'outil censure, ils ont besoin de sortir la menace, ils ont besoin de machin, c'est normal. Curieux concept de la démocratie quand même, cela montre qu'il faut passer la 6ème avant que ça ne parte en sucette en France. Alors, la 6ème République, est-ce qu'il y aura des motions de censure dans la 6ème République? Oui, on est d'accord. D'accord, non, vous me rassurez. Hein. Non, vous me rassurez. Hein. Oh, on sait jamais. Hein. Est-ce qu'il y aura des 49-3? Est-ce que... Répondez pas trop vite. Hein. Répondez pas trop vite parce que Lucie Castet, ça se trouve, dans deux jours, elle va vous annoncer un 49-3. Hein. Attendez, attendez. Attendez, on s'emballe pas. On touche du sable. voilà, on se concentre, on respire. Un 49-3 de gauche, ça me va. Ah bah ça, bien sûr. Un 49-3 proposé par les gens qu'on aime bien, c'est toujours un très bon 49-3. Tu l'auras remarqué. Oui, bien sûr. T'inquiète, je gère. Vas-y, vas-y. Si Lucie Castel le fait, ça reste un outil antidémocratique. Ouais, alors bon, on peut en discuter. Est-ce que le 49-3 est si antidémocratique que ça? Compte tenu du fait qu'il déclenche le dépôt d'une motion de censure. Est-ce qu'une motion de censure, c'est antidémocratique, finalement? Est-ce qu'un vote à l'envers, c'est pas un vote quand même? Est-ce qu'à défaut de voter pour, on vote contre? C'est pas quand même une expression démocratique? C'est quand ça vous arrange. Ouais, c'est ça. Il y a le bon et le mauvais 49-3. Voilà. Il y a le 49-3 antisocial et libéral et le 49-3 populaire. C'est pas pareil. Je croyais que c'était la stratégie de Mélenchon de faire passer en 5ème République avec 49-3 et passer en 6ème République en partant. Non. Non, non, 49-3 n'a rien à voir avec ça. Pour changer de République, il faut une modification de la Constitution. Et ça, il n'y a pas de 49-3. Est-ce que la motion de censure invalide la décision de 49-3? Ah bah oui. Oui. Si une motion de censure est adoptée dans le cadre de l'activation d'un article 49-3 par un gouvernement, alors non seulement le gouvernement dégage, mais sa loi avec. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, une motion de censure adoptée, c'est une expression claire du Parlement. Ça dégage. La loi et l'équipe. C'est quoi un 49-3? L'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, c'est un outil qui permet à un gouvernement de faire adopter un projet de loi sans vote à l'Assemblée nationale s'il réussit à échapper à une motion de censure. Donc c'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y a pas de vote, parce qu'il y en a un. Donc c'est une manière pour un gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte et de se mettre dans la balance avec le texte, en disant aux députés, si vous êtes contre mon texte, virez-moi avec. Voilà. C'est un truc totalitaire, pas du tout. C'est pas du tout totalitaire. C'est un outil parlementaire qui permet in fine l'expression de la volonté de la Chambre. Que devient le rôle du Sénat si Lucie Castet est Première ministre? Le même rôle que d'habitude, Lucie Castet, en devenant Première ministre, ne change pas la République. Donc le Sénat bouge pas. L'Assemblée non plus. La présidence de la République non plus. 49-3, c'est la dictature non plus. C'est pas de la dictature non plus, le 49-3. Le prochain gouvernement osera-t-il des 49-3? Je t'invite à te poser la question de la manière suivante. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, aura-t-il les moyens de ne pas utiliser de 49-3? Bon courage, Lucie. On pense à toi, très fort. Est-ce qu'il est possible de déclencher un 49-3 après les débats sur une loi? Bien sûr, évidemment, le 49-3 peut arriver en dernière minute. Oui, bien sûr. C'était le cas sur la loi Macron 1 en 2000. C'était quand? 2016? 2014, je me souviens plus. Le problème, c'est pas le 49-3, c'est le fait qu'un 49-3 ait besoin d'autant de voix pour être censuré. Alors, la motion de censure est adoptée s'il y a la majorité absolue des députés qui la votent. Oui, d'accord. C'est le principe de la démocratie. Celui qui a le plus de voix gagne. C'est pas. Toi, tu voudrais pouvoir. Tu voudrais qu'un groupe minoritaire puisse dégager un gouvernement? Ça me paraît. Il y a 49-3, mais il faut un vote de confiance. Ben, c'est la même chose. Vote de censure et vote de confiance, c'est la même chose. C'est juste le négatif l'un de l'autre. Oui, mais seulement les groupes minoritaires gentils. Ouais. Quel rôle pour Macron une fois un gouvernement Castex aux commandes? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Parce que j'entends parler de cohabitation. Hein, il y a des gens qui disent, ouais, Castex, ce serait une première ministre de cohabitation. Et moi, là, je tique un peu. Parce que une cohabitation, comme on l'a connue en France en 1986, en 1997 et en 1993, c'est un régime dans lequel le président de la République a un premier ministre qui n'est pas de son bord politique, mais dans lequel le premier ministre a une majorité absolue. Chirac, en 86, il a une majorité absolue. Donc il peut faire passer des lois. Ok? Lucie Castet, elle deviendrait première ministre de cohabitation, où elle cohabiterait avec un président de la République qui n'est pas totalement dépourvu de son pouvoir. Alors que dans le cas des cohabitations précédentes, le président de la République n'avait plus de pouvoir. Il s'occupait en gros de l'armée, enfin des enjeux de défense, des enjeux internationaux. Et voilà. C'est plus une colocation. Ouais, c'est plus une colocation, je suis assez d'accord. Parce que. Je vais raconter une anecdote. C'est pas une anecdote, en fait. C'est que le Premier ministre et le président de la République déjeunent ensemble tous les lundis. Voilà, c'est comme ça. Il y a un déjeuner, PMPR, comme on dit. Ils se retrouvent à l'Élysée pour déjeuner et parler des sujets de la semaine, etc. Machin. Conseil des ministres aura lieu mercredi. Là, c'est lundi. On parle des dossiers, etc. Quand on est en cohabitation. François Mitterrand déjeune avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, Premier ministre, qui a une majorité avec lui, il vient rencontrer un président faible, qui n'a pas les moyens de lui mettre des bâtons dans les roues. Le Premier ministre vient rencontrer le président de la République pour l'informer de ce qu'il a l'intention de faire. Lui qui gouverne la France. C'est plus lui. C'est plus le président qui gouverne la France, c'est lui. Donc il discute, etc. Puis il lui dit, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que mon gouvernement va faire. On va déposer un projet de loi, machin, on va faire ci, là, on va corriger ça, machin. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Là, Lucie Castel, elle va aller déjeuner avec Emmanuel Macron le lundi. Et en fait, elle va se retrouver face à un homme qui est à la tête d'un groupe à l'Assemblée nationale, plutôt d'une coalition de groupes à l'Assemblée nationale, dont elle a besoin pour gouverner. Vous sentez que l'ambiance n'est pas la même au déjeuner? Ou en gros, Macron, il va être là comme ça, en train de l'écouter parler, puis il va dire oui, très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez me donner pour que je vous censure pas? Parce qu'en fait, j'ai le doigt sur le bouton là, et il suffit que je dise à mes députés de vous censurer et vous dégager, Madame la Première ministre. Ça va être chelou. Donc ça va être plus une colocation, ouais, qu'une cohabitation, je suis d'accord avec vous. Tu vas dire que Castex ne va pas pouvoir faire tout le programme du NFP. Ah, je vous l'affirme. Pourquoi ton pseudo c'est Eric Zemmour Gaming? Tiens, tu dégages. Hop, voilà. Pardon. Macron dirige encore sa majorité. Via Gabriel Attal, oui! Oui, bah oui, il est député macroniste, il reste macroniste. C'est bien beau de censurer, mais les macronistes proposent une majorité alternative. Ah, ça, c'est la bonne question qu'on pose à chaque motion de censure, d'ailleurs. Est-ce qu'une colocation politique a déjà eu lieu? Non, jamais. Bon, il y avait la cohabitation de 93 qu'on appelait la cohabitation de velours. Parce qu'elle se passait pas trop mal. Mais ou parce que les relations étaient apaisées plutôt par rapport à Chirac, Balladur, c'était pas tout à fait la même chose. Pourquoi y avait-il des 49-3 déjà sous Hollande alors qu'il était majoritaire au Parlement? Parce que sa majorité n'était pas claire. 49-3, c'est un outil de clarification de la majorité. Il se trouvait que, à l'époque, dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il y avait des députés qu'on appelait les frondeurs, qui étaient des députés qui menaçaient de ne pas voter les lois portées par le gouvernement. Et le gouvernement avait donc l'obligation d'avoir recours au 49-3 pour éviter la non-adoption de la loi. Le 49-3, c'est pas juste PLF, PLFSS? Non! Le nombre de 49-3 est illimité sur les lois budgétaires. Par contre, il est limité à une loi par an pour les lois ordinaires. Tu sais nommer quelques frondeurs? Eh ben, il y avait Richard Ferrand. Benoît Hamon, mais il n'était pas député, Benoît, si? Je me souviens plus. Marie-Noëlle Lindemann. Arnaud Montebourg, évidemment, Arnaud Montebourg. Oui, Hamon, il était député. Ok, Hamon était député. Jérôme Guedj. Christian Paul. Putain, vous avez raison, ouais, c'est vrai. Ça rappelle des souvenirs, hein. Est-ce qu'on peut faire un 49-3 après avoir perdu le vote standard ou on doit le faire à l'avance? On doit le faire à l'avance. Gérard Filoche, Aurélie Filippetti, ouais. Alerte, information, mesdames et messieurs, je vous informe sur ce stream en direct que Emmanuel Macron écarte l'option du gouvernement du nouveau Front Populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Lucie Castet ne sera pas à Matignon, en tout cas pas tout de suite. Au terme des consultations, le président de la République a constaté qu'un gouvernement sur la base d'un seul programme et des seuls partis proposés par l'Alliance regroupant les députés du Nouveau Front Populaire serait immédiatement censuré par l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée nationale, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. C'est donc dead pour Lucie Castet. Pour l'instant. Pour l'instant. De nouvelles discussions vont donc s'ouvrir dans les prochains jours afin de composer un nouveau gouvernement. Le nouveau Front Populaire va-t-il rester uni? Va-t-il y avoir des divisions? Va-t-il y avoir des cohabitations alternatives qui vont être proposées? Est-ce que le groupe Ensemble pour la République va réussir à négocier avec Laurent Wauquiez pour constituer une majorité alternative? Vous en saurez plus au prochain épisode en vous abonnant à la chaîne Twitch de Jean Massier. Je vous rappelle que l'abonnement est pas très cher. Il va être encore moins cher à partir du mois de septembre pour l'opération September. Mais que si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Twitch de Jean Massier chaque mois. C'est une disposition prévue par la Constitution. Est-ce que LR et Ensemble, ça fait une majorité relative? Oui, absolue, sûrement pas. Donc pas de Switch 2. La Switch 2 ne sera donc pas annoncée tout de suite. Et non. Il faut tout casser. Oh, si vous voulez être sûr que Lucie Castet ne sera jamais Premier ministre, oui, vous pouvez. Silksong, c'est raté, c'est repoussé. À nouveau, terrible. Le NFP n'est pas au gouvernement. Alors attendez, je change le titre du stream. Lucie Castet, pas à Matignon. Voilà, on a la réponse qu'on attendait. Pour l'instant, en tout cas, pas d'allocution du président de la République pour nous expliquer pourquoi, mais Lucie Castaigne ne fera pas son entrée à Matignon tout de suite. Le gouvernement Attal reste un gouvernement démissionnaire, ça bouge pas. C'est fou que les LR décident tout. Ils décident rien. Seulement s'il réussit à s'allier avec les macronistes. Il va remettre Attal, si ça se trouve, ouais. Est-ce qu'il y a un délai pour un mandat démissionnaire? Non, il n'y a pas de délai. Virtuellement, un gouvernement peut rester démissionnaire éternellement. J'ai bien dit virtuellement. Est-ce que tu es surpris? Bah non, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Non mais non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Je viens de vous expliquer que mon avis avait changé au cours du week-end et que je trouvais qu'en vrai, ça commençait à avoir de la gueule l'option Castet après le move de Mélenchon, etc. J'ai passé quoi, 2 heures de stream à vous expliquer ça. C'est pas pour vous dire. Non mais en vrai, je le savais. C'était sûr. Non mais c'était sûr. Ouais, j'ai une grosse intelligence, hein. Avant tes vacances, tu parlais de déni de démocratie en cas de non-nomination d'un premier ministre NFP. Ton point de vue maintenant? J'ai jamais dit déni de démocratie, moi. Hein. Ça, c'est l'élément de langage du NFP. Et ils ont bien raison de l'utiliser. Hein. C'est un très bon élément de langage. Hein. C'est un bon argument, même au-delà d'un élément de langage. C'est péjoratif de dire élément de langage. C'est un bon argument. Quelle restriction pour un gouvernement en affaires courantes? Bah en fait, un gouvernement en affaires courantes, c'est un gouvernement qui ne peut pas engager de réforme, qui peut pas modifier les choses, qui peut pas engager une politique publique en faveur de quoi que ce soit. C'est le principe. Donc il ne fait qu'expédier les affaires courantes, c'est-à-dire permettre à l'administration de continuer à fonctionner normalement, habituellement. Il peut parer aux urgences, ça paraît logique. Je sais pas s'il y a des incendies dans le Var. Le ministre de l'Intérieur peut envoyer des pompiers, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est le fonctionnement habituel, normal, des pouvoirs publics. Mais par contre, c'est pas un gouvernement qui gouverne au sens de engager des modifications des politiques publiques. Pas de projet de loi, par exemple. Que font les députés en attendant? Ah bah rien, là, ils sont en vacances, les députés. Je vous rappelle que le Parlement ne se réunit pas, là. Le Parlement n'est pas en session. Tu as parlé de dictature il y a 2 semaines si Lucie Castaigne n'était pas nommée, est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu penses que la procédure de destitution a des chances d'aboutir? Non, je ne pense pas. Les insoumis ont annoncé engager une procédure de destitution du président de la République. Sauf que pour ça, il faut réunir la haute cour, et que la haute cour se réunit avec 2 tiers des votes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les insoumis n'ont pas 2 tiers. Très 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 loin de là. Question con, mais il se passe quoi si aucune des propositions de Premier ministre ne convient au président? Alors en fait, c'est intéressant ta question parce que il faut bien comprendre que, et c'est toute la bizarrerie de cette situation où Emmanuel Macron consulte à l'Élysée, il ne s'agit pas de plaire au président, en fait. Il ne s'agit pas de plaire au président de la République. Il s'agit de plaire à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que le communiqué de l'Élysée dit. L'alliance du Nouveau Front Populaire serait immédiatement censurée par l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée nationale. Face au blocage, Emmanuel Macron appelle les responsables politiques à faire preuve d'esprit de responsabilité et exhorte notamment le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes à proposer des chemins pour coopérer avec les autres forces politiques. Le président a annoncé qu'il lancera mardi de nouvelles consultations avec les responsables des partis et des personnalités. Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué ni affaibli, a-t-il déclaré. Ah ! Emmanuel Macron propose une scission du nouveau Front Populaire. Carrément. Emmanuel Macron propose une scission du nouveau Front Populaire. Alors attends, parce que j'ai quand même un truc que j'ai envie de vérifier. Hop, hop. Simulateur de majorité du Figaro, qui marche très bien, je l'aime bien. Si tu prends l'ensemble des macronistes et que tu rajoutes les socialistes, t'as pas une majorité. Ça veut dire qu'il faudrait absolument rajouter les écolos et les communistes. Ou juste les écolos. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. On va en rediscuter. Hein. On va en rediscuter parce que est-ce que le Parti Socialiste a intérêt à se séparer des Insoumis? L'alliance NUPES-NFP, elle a fonctionné pendant 2 ans, à deux élections successives. Liot? Non mais Liot, par définition, c'est des électrons libres. Je les aime bien, Liot, mais... Ça va être hyper intéressant à suivre. Plus les insoumis vont être énervés, plus ça va donner des arguments au PS de se séparer des insoumis. Je réfléchis. Il va y avoir une rentrée sociale importante. Hein, ça, de toute façon, j'ai entendu l'appel de Sophie Binet à ce qu'il y ait des manifestations et des grèves à la rentrée. En gros, c'est un coup de force de Macron pour tenter ce qu'il n'arrive pas à faire depuis 3 mois et casser le NFP. Ouais. Oui, c'est ça. Essayer de constituer une majorité alternative. Effectivement, ce à quoi appelle Emmanuel Macron, c'est à une majorité qui comprend... Regarde, si je retire les écolos, ça fait la droite. Ça fait 287. Il faut compter sur quelques noms d'inscrits pour avoir une majorité absolue. Ou alors Liot. Mais... Putain, je rappelle encore une fois que ces trois groupes-là, communistes, écolos et socialistes, ils sont élus grâce à des voix des insoumis, qui eux-mêmes sont élus grâce aux autres voix. On est bien d'accord, hein, je me tue à le répéter. Donc, ils n'ont pas intérêt à quitter l'alliance. Une alliance qui réussit à avoir 193 députés, tu la quittes pas en claquant des doigts, quoi. Il y a une interdépendance. Bah ouais, il y a une interdépendance, puis il y a un projet commun, il y a un projet qui a été négocié, qui a été voulu. Mais c'est vrai que Olivier Faure, il est mis sous pression au sein du Parti Socialiste. Même si ça permet de faire certaines choses, il faut voir lesquelles. J'ai pas envie d'avoir sa vie en ce moment à Fort. Bah écoute, je l'ai vu avant-hier, il allait bien. Hein. Bon, on était tous un peu bourrés, mais... mais les discussions étaient sympas. Du coup, gouvernement technique, bah du coup, le gouvernement Attal va continuer à être un gouvernement technique. Ceux qui le mettent sous pression ne sont pas eux-mêmes majoritaires au PS. Bah, faut voir, hein. Moi, de ce que j'ai vu, l'émotion au PS, il y en a quand même beaucoup qui demandent la rupture avec LFI, hein. On verra au congrès. On verra au congrès. Est-ce que Olivier Faure va réussir à garder le parti ou est-ce qu'il va se faire renverser? C'est quand le prochain congrès? Le prochain congrès du PS, je crois qu'il est en début d'année prochaine ou en fin d'année là? Plus ça arrive, Est-ce qu'en 3045 les gens comprendront que le PS n'est qu'un parti de traîtres de centre-droite? Non, je crois qu'il faut que tu le cries plus fort. Ça n'a pas l'air de passer. Est-ce que c'est par un soulèvement de la rue qui va pousser Macron à laisser le NFP gouverner? Je pense qu'il va y avoir une rentrée sociale importante. Avec des grosses manifs, ouais. En 2035, les gens comprendront que la politique de Mélenchon ça marche nulle part. Eh, vous voulez pas aller sur Twitter? Les gens de gauche, là. Vous le savez que c'est votre réseau. Celui-là où on perd des électeurs. Allez-y, hein, en vrai. C'est mieux que mon chat, je vous jure. En tout cas, nous, on préfère. Ceux qui critiquent Mélenchon sont des gens de gauche. La fatigue. Non, puisque seuls ceux qui pensent comme Jean-Luc Mélenchon sont de gauche. Pourtant pas compliqué, hein. Le danger n'est-il pas qu'il y ait un soulèvement de gauche à la rentrée, mais que 70% des électeurs ont voté centre-droit, extrême-droite? Alors, effectivement, on peut voir les choses comme ça. On peut aussi dire qu'une grande majorité des électeurs ne sont pas allés voter. Enfin, tu sais, c'est toujours pareil. Est-ce qu'une mobilisation de gauche, des manifestants, etc., une mobilisation avec des manifestants, des grèves, etc., ne fonctionne réellement que s'il y a une forte approbation de l'opinion publique? Moi, ce qui va m'intéresser là dans les prochains jours, c'est les sondages. Que pensent les Français du refus par Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet? On verra, ça peut être intéressant. Il y a peut-être des Français qui ne savent pas trop, etc. Il y en a peut-être beaucoup qui vont dire: Ah, c'est une très bonne chose de ne pas avoir nommé Lucie Castet, etc. Mais combien sont-ils? Comment les Français voient les choses? Les sondages disent Gabriel Attal. Ouais. Jusqu'à présent, ouais, mais est-ce que Lucie Castet va gagner des points par le refus de Emmanuel Macron de la nommer? À la rentrée parlementaire, le gouvernement démissionnaire se présente devant le Parlement si Macron tergiverse encore. Bah, s'il continue à tergiverser, peut-être qu'il va renommer Gabriel Attal Premier ministre en lui disant: Bah, tu n'es plus démissionnaire, tu es Premier ministre. Et par contre, tu n'es qu'un gouvernement technique, quoi. J'en sais rien, on verra bien. Mais Gabriel Attal, il a juré la vie de sa mère qu'il ne serait pas le prochain Premier ministre. Si j'ai bien lu ses interviews. Attal peut refuser, c'est même probable. Oui, Attal refusera. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Chafaud. Oui, il refusera. S'il nomme Attal, motion de censure. Oui, c'est ça, mais de toute façon, ça nous renverra à la case départ, hein. Est-ce que c'est la première fois qu'une assemblée est découpée en trois blocs équivalents? Sous la Ve République, oui. Sous la Ve République, depuis 70 ans, on a toujours une majorité absolue. À deux exceptions, 1988 et 2022, dans lesquelles on avait des majorités relatives, mais qui étaient des majorités relatives claires. Et 97, ah non, non, 97, il y avait une majorité absolue, hein. 97, il y avait une majorité absolue de gauche plurielle. C'est pour ça que Lionel Jospin s'est retrouvé Premier ministre. Quelle va être la stratégie de la gauche maintenant que Macron a rejeté le NFP? Continuer à insister pour qu'il la nomme. Continuer à insister pour qu'il la nomme. En disant, il faut lui faire entendre raison, il faut censurer les gouvernements alternatifs. Là, les groupes du NFP, ils vont voter la censure des autres gouvernements, hein. Pourquoi Macron ne lance pas Castex et on voit si ça tombe vraiment? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il est à la tête du coup d'une majorité de députés. Il ne peut pas nommer un Premier ministre et demander à ses députés de censurer immédiatement. Enfin, ça me paraît bizarre. J'ai loupé l'info, Castex est mort. Castex est mort pour l'instant. Et je maintiens le pour l'instant, parce que les gars. On verra ce qui se passe dans 3 mois, on verra ce qui se passe au moment du budget, on verra ce qui se passe même dans le mois qui vient. La question là, c'est est-ce que le nouveau Front populaire reste solide? Est-ce que le nouveau Front populaire reste uni? Et je pense qu'Emmanuel Macron, malin comme il est en train de mettre sous pression, en fait. Il est en train de mettre sous pression le NFP. Pour voir si ça tient. Pour voir si le PS tient. Pour voir si Olivier Faure se fait dégager. À mon avis, là, dans les huiles de l'Élysée, ils sont en train de faire des calculs sur le prochain congrès du PS. En disant, si Faure se fait dégager, il y a moyen qu'il quitte le NFP et. Et ça casse la gauche, quoi. Mais le NFP fait pression sur Macron aussi. Tu as parfaitement raison. Le NFP fait pression sur Macron aussi. Et il a bien raison. Le NFP, il est dans son rôle. Il revendique une victoire à une élection. Jean-Luc Mélenchon peut-il réellement lancer une destitution? Il peut la lancer, mais il ne peut pas la rattraper. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut toujours déposer une motion. De destitution, elle ne sera probablement pas adoptée par les deux tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat comme c'est prévu. Pourquoi ils ne font pas un gouvernement PS Ensemble et LR? Parce que Ensemble est un groupe politique qui est né en 2017 de la volonté d'Emmanuel Macron exprimée en 2016 de dépasser les clivages gauche-droite et de travailler avec des gens qui viennent de gauche et des gens qui viennent de droite. Emmanuel Macron a réussi à agréger un certain nombre de responsables politiques qui viennent de droite et un certain nombre de responsables politiques qui viennent de gauche, donc essentiellement des Républicains et du PS. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste au PS et aux Républicains? Il reste des gens qui ne veulent pas travailler avec les macronistes dans cette espèce de délire de. Par-delà les clivages, etc. Donc, les socialistes ne veulent pas travailler avec les macronistes. Et les républicains ne voulaient pas travailler avec des macronistes jusqu'à juin dernier, où Éric Ciotti a décidé de se casser, et maintenant c'est Laurent Wauquiez qui récupère le parti. On verra, Laurent Wauquiez semble un peu plus ouvert que Éric Ciotti. Il a parlé de contrat de législature, il a proposé des... il a mis des choses sur la table, etc. On verra. Plus qu'une seule solution, Castet présidente. Et si on faisait une primaire à gauche? Je ne comprends pas comment céder à Macron serait bénéfique au PS. Moi non plus. Le QI des gens ici. Eh, calme-toi. Si t'as des lumières à nous partager, n'hésite pas, hein. Oh, oh là là. Vous êtes tous des gros cons, apparemment. Excuse-nous, Einstein. Moi aussi. Ah oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. Non mais qu'est-ce qu'on se disait entre gros cons avant? Attendez. Non mais on était en train de se parler. On parlait de quoi? Je suis devenu encore plus con d'un coup. On disait Macron pas ouf. Non, on disait ils font pression l'un sur l'autre. Et ils ont raison. L'intérêt du PS à s'allier à Ensemble. Ouais, c'est ça. Le PS ne sera pas allié d'LFI au municipal. On le sait, ça, c'est pas très grave. Jusqu'à présent, ça n'a pas empêché le PS de gagner les élections. On sait que les insoumis sont pas très bons dans les élections municipales. Donc c'est pas. Je veux dire, c'est pas révolutionnaire de se dire on sera pas ensemble aux élections municipales, on va faire alliance là où on peut avec les écolos et les communistes, ça dépend des villes. Donc la prochaine élection, ça va pas être un test pour le nouveau Front Populaire, ça va être l'occasion pour le PS de se renforcer éventuellement. Donc je vois pas l'intérêt pour le PS de s'allier maintenant à Ensemble, qui, pardon, mais c'est plus un bateau qui coule Ensemble. Les insoumis ont été très plébiscités dans les grandes villes aux européennes. Ouais, mais au municipal? Se passe quoi au Parlement européen? Rien. La prochaine session, c'est en septembre, là. C'est qui les gens du PS qui veulent rejoindre LREM en coalition à part Maillard-Rossignol? Alors, il n'y a personne au PS qui souhaite rejoindre LREM. Hein. Ils le disent pas comme ça. Enfin, ils finiront par en convenir. Mais pour l'instant, oui, c'est Nicolas Maillard-Rossignol, Carole Delga, Raphaël Glucksmann, Anne Hidalgo. Enfin, tu vois, c'est cette partie-là du PS qui est très critique d'Olivier Faure et qui est très critique de LFI. Mais les députés, il n'y en a pas. Bah non, les députés, ils ont tous été élus avec des voix LFI. Ils sont pas débiles. Michael Delafosse aussi, ouais. Cazeneuve, il est plus au PS. Hein. Pourquoi ils l'ont pas fait avant, Delga, etc. Et parce qu'ils sont pas majoritaires au PS. Hein. C'est ricrac, mais ils sont pas majoritaires. C'est Olivier Faure qui est majoritaire. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle scission du PS? Non, ça j'y crois pas non plus. Non, mais je pense qu'ils font ils font les marioles à menacer, etc. En faire des caisses et tout. On va avoir Raphaël Glucksmann qui va faire sa rentrée en septembre là. Très bien, il fait ce qu'il veut. Raphaël Glucksmann, c'est très bien. Il crée son parti, machin. Mais Mais ils vont pas réussir à créer un parti. Ils ont rien de d'entraînant à proposer, tu vois. Comment voter pour les motions du PS? Il faut être adhérent du Parti socialiste et le vote aura lieu dans les fédérations départementales à l'occasion du congrès. Même au PS, Glucksmann, il n'est pas aimé. Bon, il a quand même fait un bon score aux européennes. Je pense que les socialistes lui sont reconnaissants quand même. Pourquoi tu crois encore que Lucie Castet a encore des chances? Mais parce que la partie n'est pas jouée. La partie n'est pas encore jouée. Emmanuel Macron va nommer je ne sais quel gouvernement qui va durer le temps qu'il va durer. Et si ça se trouve, toute la discussion qu'on est en train d'avoir, on va la réavoir. On va la réavoir dans quelques mois, en fait. Et Lucie Castet pourra éventuellement être le recours. Et encore une fois, Lucie Castet à Matignon, ce n'est qu'une partie du travail. Lucie Castet à Matignon, c'est le début des emmerdes, hein. C'est pas une victoire. Ceux qui sont de gauche, vous pourrez célébrer ça si vous voulez pendant quelques heures, mais en réalité, c'est le début des emmerdes. Parce que si ça se trouve, elle aussi, elle va durer que quelques mois. Castel, les Français n'en veulent pas. Alors, en l'occurrence, la nomination d'un Premier ministre, ce n'est pas un scrutin uninominal majoritaire au scrutin universel direct, donc on s'en branle que les Français veulent ou pas de Lucie Castet. Ce qui est important, c'est les parlementaires. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc Lucie Castet, si elle veut être Premier ministre, il faut qu'elle soit soutenue, ou en tout cas pas censurée, par le Parlement. L'Assemblée nationale, pour être plus précis. Les Français veulent le NFP. En partie, là aussi, j'ai toujours un petit peu de mal avec la rhétorique du NFP qui consiste à se présenter comme si vous aviez remporté une élection majoritaire. Enfin, ouais, enfin, vous avez 200 députés, quoi. C'est vachement bien, mais c'est pas suffisant. Les Français ne veulent pas de Macron, c'est tout. Oh, il se défend pas trop mal avec sa centaine de députés. Pas suffisant non plus. Les Français veulent Baxit. Ah, ça oui. Les Français veulent Baxit. Les Français réclament Baxit. Vous pouvez aller sur KissKissBankBank pour soutenir Baxit. Méluge dépose la motion de destitution, c'est officiel. Normal ça. C'est évident. C'est évident. La question c'est qui va la voter, la motion de destitution. Est-ce que vous pensez que François Hollande, qui est un jeune député, va voter la motion de destitution d'Emmanuel Macron, son ancien ministre? Oh! Intéressant, à suivre. Sachant que ce ne sera pas adopté, hein, encore une fois. Surtout que destituer Macron ne change rien au problème. Oui, ça c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, effectivement. Oui, je vous rappelle que destituer Emmanuel Macron n'est pas une solution, en fait. Là, tout de suite, je veux dire. Si Macron n'est plus président, mais que c'est quelqu'un d'autre président, qui que ce soit, hein, même Mélenchon, ça marche, il sera dans la même merde, en fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant juin prochain. Donc le problème sera le même. Voilà. Petite parenthèse, mais merci pour ton temps à être là avec nous. Non, mais merci à vous, les amis. Tiens, c'est gentil comme message, ça. Merci à vous, les amis. Putain, du coup, j'ai envie d'inviter Hollande sur Backseat maintenant. J'ai envie d'inviter Hollande sur Backseat parce que j'ai des questions à lui poser. Notamment une. T'as déjà invité des députés, je vois pas le problème. Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est un jeune député. En plus, il commence un peu, il débute, donc non, faut. Si destitution, Larcher, il a combien de temps pour ramener les Français aux urnes? De mémoire, c'est 3 mois. Je vous rappelle qu'en cas de vacances de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Attention, je le redis. Le président du Sénat ne devient pas président de la République. Il assume l'intérim de la présidence de la République. Et en gros, il fait pas grand-chose, juste il organise des élections présidentielles qui se tiennent dans les semaines qui suivent, 3 mois, un truc comme ça. Il va même pas s'installer à l'Élysée, hein, il reste au Sénat. Hein. Est-ce que tu penses que Mélenchon est capable d'avoir 500 signatures en 3 mois?
Oui.
Je pense. Faut faire quoi pour virer Macron? Faut voter avec des bulletins dans des urnes à l'occasion des élections présidentielles qui se tiennent tous les 5 ans. Donc Alain Poher n'a pas été président. Alain Poher n'a pas été président de la République. Il a assuré l'intérim de la présidence de la République. Bon les copains, ça fait 2h30 qu'on raconte des conneries. Je pense qu'on a fait le tour des conneries. Je regarde si on tape notre meilleur raid quelque part, mais je pense que je vais vous laisser aller dormir. Ah si, il y a Vincent! Vincent Manilev qui fait des chroniques dans Backseat. Allez hop! Raid chez Vincent. Il parle des dingueries de Villebrequin, etc. Bon, je vous rappelle, attention, que vous allez débarquer chez lui à plusieurs milliers. Lui, là, il a 300 viewers, donc soyez sympa. Soyez cool. Bordélisez pas son stream, respectez son rythme, etc. Let's go. Vous connaissez. Solide sur les appuis, on se fait pas un claquage. Merci les amis d'avoir été avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.
Et donc voilà, donc en tout cas, Sylvain, dans son live, il ironisait sur certaines choses. Il a démenti pas mal de... Oh non! Oh la vache. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.